Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
17h59, bonsoir à tous. Comme tous les vendredis, c'est l'heure de Roten Régal. Bienvenue. En tout cas, j'espère que vous avez passé tous une bonne semaine. Pour le football français, c'était une grande semaine avec la qualification du Paris Saint-Germain. Et pour parler de tout ça, bien sûr, pour revenir sur ce match, mais aussi pour lancer le week-end, Jean-Louis Tour est avec moi. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme.
L'homme de télé.
Salut tout le monde.
La semaine de Ligue des Champions.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Tu fais pour... Ah oui, tu fais des débriefs.
C'est vrai.
Il est là. T'es l'homme qui monte, hein, quand même. Hein.
Ah bon?
Ouais.
Tu crois?
Tu montes.
Bah si je veux, oui.
Mais sans écraser les gens, parce que tu pourrais aussi.
Ah, je suis en plein régime.
Ouais. Ah bah, il était temps. C'est grâce à moi, ça, en fait.
Oui, un peu.
Un peu. Tu fais comme j'aime?
Non.
Non?
Non, je cours.
Ah, tu...
On s'en fout,
non, allez. Cours pas.
Enfin, c'est pas difficile de courir à ce niveau-là.
Ah, d'accord. Jean-Michel Larquet, bien sûr, avec nous. Salut, Jean-Mi.
Salut tout le monde. Une vraie gravure de mode, Jean-Louis. Une vraie gravure de mode.
Et qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu dors quand je fais la télé?
Il était magnifique.
T'écoutes pas les débriefs? Si, quand même, t'écoutes les débriefs.
Le début.
Oui, parce que c'est trop tard, pas pour la qualité de l'émission.
Je parle le début après. Si
tu m'as dit, on dirait Roger Zabel à la grande époque.
Bon, la Ligue des Champions, on y reviendra tout à l'heure à 18h30 dans l'élève contre le maître, puisque Captain, tu veux revenir sur les propos de Nasser Al-Khelaïfi. A-t-il raison de mettre en avant le projet sportif quand il évoque l'éventuelle prolongation de contrat pour Kylian Mbappé? Ce sera le débat dans l'élève contre le maître. Et je l'entends marmonner là, c'est incroyable.
Et puis, même pas son projet sportif. Vas-y.
La 33e journée de Ligue 1, on va la lancer ensemble dans Roten Régal à 19h dans le multiplex. Galtier est-il en train d'allumer des contre-feux pour masquer les méformes de son équipe? Ce sera l'un de nos gros débats avec nos correspondants tout à l'heure. Mais on commence par le clash de la semaine. Pablo Longoria contre le foot
français. Aïe, aïe.
Bonsoir Pablo Longoria, merci beaucoup d'être avec nous.
C'est qui Pablo Longoria?
Bonsoir président.
Qu'est-ce qu'il a fait lui dans sa vie?
J'ai beaucoup d'ambition, beaucoup de réussite dans toutes les choses que j'ai cherché de faire dans ma vie.
Dès qu'il y a un entraîneur étranger qui arrive, c'est toujours extraordinaire, tout va être révolutionné.
Et je me suis dit, bon, je suis préparé.
On est très bien chez nous. Si les étrangers ne sont pas contents de ce qui se passe dans notre pays, mais qui travaillent ailleurs et qui nous laissent tranquilles.
Alors...
Je l'ai dit, elle est extraordinaire. Il était tout rouge.
Voilà. Ah ouais, je te confirme, j'étais juste à côté. Donc.
Alors, Pablo Longoria est en train de se mettre à dos le foot français. Tout part de son interview à El País mardi, dans laquelle il aborde plusieurs sujets. La formation française qui développe surtout des qualités individualistes chez les joueurs que cette formation forme. Des entraîneurs qui n'ont pas de style de jeu. Il dit il n'y a pas de style de jeu à la française. Et la preuve, eh bien, ces entraîneurs s'exportent moins que d'autres nationalités. Alors ça a beaucoup fait réagir. Vous venez d'entendre Bruno Genesio, coach Courbis, c'était pas en son, mais il y a eu aussi la réaction de Raymond Domenech, d'Hubert Fournier, le directeur technique national, et puis les entraîneurs de Ligue 1.
Il est vivant ?
Hubert Fournier ou Raymond Domenech ?
Non, bon, Hubert Fournier.
Bah écoute, oui, là, il était remonté surtout sur l'expression effectivement qui était peut-être un peu déplacée de football de rue pour parler des joueurs formés en France. Et puis donc les entraîneurs de Ligue 1. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de conférences de presse. Ils sont plusieurs à être remontés. On commence par Antoine Comboiré, l'entraîneur de Nantes. Écoutez l'échange avec Pierre-Yves Leroux sur le sujet.
C'est qui Pablo Longoria?
Celui Longoria.
Ah voilà. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. C'est bien. Et depuis quand il est président?
Depuis quelques semaines.
Okay.
Il dit qu'il n'y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si on analyse l'ensemble du globe, c'est l'un des pays qui exporte le moins de coachs. Ils ne vendent pas d'idées collectives.
Moi, je réponds pas, moi. J'ai même pas entendu, j'ai pas envie de savoir ce qu'il dit, voilà, ça m'intéresse pas. Nous, on sait simplement qu'on est champion du monde avec Didier Deschamps, et puis on a aujourd'hui le record donc de Ligue des Champions consécutive, c'est Zidane, non, je crois que c'est ça. Voilà, c'est bon, on a répondu. Merci à vous.
Merci.
Voilà.
Voilà, donc Antoine Comboiré à Nantes, et puis écoutez Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Metz, lui aussi remonté, tendez bien l'oreille pour bien saisir tout ce qu'il dit.
Qu'est-ce qu'il a fait lui dans sa vie? Je crois que le président de Valence, ou l'un des dirigeants de Valence, l'a traité de lâche et de menteur. Moi, si on me disait ça de moi, je ne serais pas très fier. Qu'est-ce que vous discutez avec des gens comme ça? Moi, je ne discute pas avec des gens comme ça. C'est des gens du... C'est le nouveau football, des gens qui arrivent là, des météorites qui font tous les ans change de club. Je peux dire qu'une chose, je sais comment il va finir l'histoire. Par expérience, je sais comment il va finir l'histoire à Marseille. Je peux lui écrire s'il veut.
Oui, mais il ne l'a pas dit. Mais en tout cas, il peut lui écrire à la fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Longoria a eu tort de critiquer les entraîneurs français? Est-ce que vous comprenez les réactions qu'on vient d'entendre? Ou est-ce que, finalement, il y a quand même des choses à retenir dans ce que dit le président de l'OM, Jérôme?
Écoute, je suis un peu partagé sur la question. Ce qui est sûr, c'est que les réactions de certains me choquent un petit peu sur le fait de... Si t'as pas envie de répondre à Longoria, pas de problème. Ce qui est le cas d'Antoine Comboiré à Nantes, je pense qu'aujourd'hui, il a d'autres chats à fouetter que de parler des propos de Longoria. Mais voilà, il a une parole maladroite à la fin où il nous compare avec Zidane et le fait que Didier Deschamps nous ait ramené la Coupe du Monde. Je pense que c'est totalement hors sujet. C'est pas du tout le principe de Longoria, il n'était pas là. C'était pas de dire, voilà, les entraîneurs français ne gagnent pas, ils sont tous nuls et tout ça. C'est vrai que ça peut être mal perçu parce que je pense que Longoria, sur certaines choses, il n'est pas dans le vrai. Je pense que sur la formation, bon, déjà, il a été, on lui a répondu, hein, du moins, notre DTN,
Hubert Fournier.
Ah oui, voilà, Hubert Fournier, qui a parlé, qui a défendu la formation française. Là-dessus, je peux pas être en désaccord avec Hubert Fournier. Hein, ouais. C'est pas les footballeurs de rue, ça, c'est fini. C'était une certaine époque, peut-être, mais c'est fini depuis bien longtemps. Sur le fait, en effet, que les entraîneurs ne s'exportent pas, c'est la réalité. Donc il y a bien un problème quelque part. Mais encore une fois, toi, tout le monde, tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des entraîneurs aujourd'hui en France qui ils parlent d'identité de jeu, par exemple. Il y a des entraîneurs en France, je suis désolé, même si ça va déplaire à Longoria ou à d'autres qui détruisent la Ligue 1, des entraîneurs qui ont des identités de jeu. Et t'es pas obligé d'avoir une seule identité de jeu. Dire, c'est il y a plein d'entraîneurs et moi j'en ai connu. Je vais te donner l'exemple d'Alain Perrin, qui est pour moi un grand entraîneur. Qu'il l'a montré à Troyes. Il est arrivé à Marseille dans un contexte pas facile. Après, il est parti à l'étranger aussi, alors dans des championnats mineurs ou exotiques. Mais il a réussi à faire son trou parce que il avait du talent de ce côté-là, dans son management. Dans un entraîneur, c'est tout. Il y a plein de choses que tu peux mettre en avant d'un point de vue tactique, d'un point de vue psychologique. Il faut être un grand psychologue pour gérer des personnalités et encore plus aujourd'hui avec tout ce qui suit les réseaux sociaux, tout ça, il faut gérer l'entourage, le fait que les convoitises arrivent de plus en plus vite aujourd'hui, on le voit même au niveau international, un joueur pour aller en équipe de France aujourd'hui, un jeune, s'il fait 20 bons matchs, t'as l'impression même sans match de Coupe d'Europe qu'il va être appelé en équipe de France, ce qui n'était pas le cas, donc tout ça, c'est difficile à gérer pour un entraîneur, et ça, il faut mettre ça aussi en avant. Mais
donc tu trouves qu'ils sont pas assez valorisés les entraîneurs français, qu'on les met pas assez en avant?
Certains, alors peut-être par rapport à leur attitude aussi, parce que il faut toujours mettre en avant, c'est pas que la qualité du championnat de France. Certains vont te dire ouais, mais bon, le championnat il est tellement minable que de toute façon on n'a pas envie de prendre ces entraîneurs là et les mettre à entraîner ailleurs. D'ailleurs, je suis désolé, Roland parlait hier, même si c'est beaucoup énervé, et très justement, que Dalloglio à Brest me dit pas qu'il peut pas entraîner une équipe portugaise. C'est pas possible. Bien sûr que ce qu'il met en place,
toi tu veux dire que c'est pas parce qu'on ne s'exporte pas qu'on n'est pas bon.
Exactement. Après, il y a une façon pour s'expatrier. Il y a une façon, en effet, je pense que le charisme fait beaucoup aujourd'hui, et c'est la réalité. Ce que je reprocherais à certains entraîneurs, alors je vais pas les citer parce qu'encore une fois, on va dire que je fais une fixette et que je les critique. Mais il y a des entraîneurs qui ne donnent pas envie, en effet, de les prendre
à l'étranger. C'est Genesio.
Ouais, bah peut-être, c'est ce que tu veux, mais c'est vrai.
Il vient de l'étranger. Il vient de passer 2 ans à l'étranger ou 3 ans.
Ouais, en Chine. Ouais. Bah lui, il dit on n'a pas de réseau. Lui, il a eu un réseau pour aller en Chine. Et donc les réseaux, ils arrivent à se les créer quand ils ont envie. Le problème, c'est pas, il vient pas que de là en fait. Il vient pas que du fait que les entraîneurs sont mauvais, ils arrivent pas à s'expatrier ou on se met pas assez en avant, on critique plus facilement en France les entraîneurs français. Non, je suis désolé, tous les gens que tu m'as fait réagir là. Et encore, je mets à part Fred Antonetti parce que je trouve qu'il fait du très bon boulot dans les clubs où il est passé, il a fait du bon boulot. Là, il a réagi à chaud, peut-être qu'il y a des choses qui l'ont choqué chez Longoria, mais d'autres, je suis désolé, quand je te parlais palmarès, si tu veux donner une leçon à Longoria, déjà fais en sorte que t'aies gagné.
Le contraire est vrai aussi.
Fais en sorte que t'aies gagné des choses pour mettre en avant cette qualité. Je suis désolé.
Est vrai.
Comment ça?
Bah, il faut que quand même que Longoria, lui, en tant que président, ait gagné quelque chose.
Ouais, bon, je suis pas sûr. Attends.
Avant de parler, il fallait faire. C'est ça que disait Jean-Michel en début de semaine.
Je répondrai tout à l'heure.
Vas-y, Jean-Michel.
Je pense qu'il est. Non, mais d'abord, Longoria, il a le droit de s'exprimer.
Bien sûr, exactement.
Et il a le droit de s'exprimer, il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, mais attention, parfois, au retour de manivelle, je pense que quand tu arrives dans un championnat, ou quel que soit, ou quand tu arrives dans une famille, on va parler de la famille du football français, je ne sais pas de la famille, tu as un minimum de code à respecter. Je pense que son prédécesseur ne pouvait pas, son prédécesseur à Marseille, ne pouvait pas diriger l'Olympique de Marseille contre les supporters. Et je pense que Longoria ne peut pas bien diriger l'Olympique de Marseille contre le football français. Donc je pense qu'au départ, c'est une erreur de sa part. Il a le droit de le dire. Mais ce n'est pas un scoop, messieurs.
Oui,
c'est
exactement.
Pas un scoop.
Ce qu'il dit, c'est pas
Attendez.
Un scoop.
Attendez. Ben non, mais quel est l'entraîneur qui n'a pas envie de progresser? Quel est l'entraîneur qui n'a pas envie de donner une identité? Qu'on n'y arrive pas, c'est le constat. Qu'on n'y arrive pas comme on souhaiterait le faire, c'est un constat. Mais dire qu'il faut que les...
Mais pourquoi on n'y arrive pas, Jean-Michel?
Alors, je vais te le dire pourquoi. En grande partie pour moi, je suis un garçon qui a adoré ses instituteurs et ses professeurs. Adoré. Monsieur Oran, Monsieur Breck, Monsieur Pleck, Monsieur Julien, Monsieur Cazenave.
Tu t'en souviens, mais comment tu fais pour avoir cette mémoire-là? C'est pas possible, tu les as écrits sur un bout de papier.
Mais non, mais pas du tout. C'était mes instituteurs quand j'étais au cours primaire, au cours élémentaire, première année, deuxième année. Je m'en souviens. C'était
des trésors. Ils sont
encore vivants ou pas?
Malheureusement, non. Ce sont des trésors.
Sinon,
des trésors.
On en aurait plein.
Et je crois beaucoup. Et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire de ce que je vous ai dit il y a trois mois. Trois semaines, trois mois ou trois ans. C'est-à-dire qu'au niveau de la formation, quand on voit qui est le patron de la formation ou qui l'a été, qui est archi nul, on a les entraîneurs qu'on mérite.
Mais alors pourquoi tout le monde s'énerve si c'est pas un scoop, que dit Longoria?
Ce n'est pas un scoop. Sauf et je trouve que la meilleure réponse a été faite. Tu l'as pas passé.
Laquelle?
Par Antonetti.
Ah.
Par Antonetti. Parce qu'à un moment donné, Antonetti, s'il a un repas à faire à midi, pas le soir, parce qu'on est, s'il a un repas à faire, il l'a dit. Moi, je veux bien discuter avec Ancelotti de football. Je veux bien discuter avec Tuchel. Il en a cité deux ou trois. Et puis, je veux bien discuter avec des grands joueurs et ça va m'apprendre quelque chose. Si tu veux, il faut savoir aussi d'où vient la critique. Je pense que Longoria, là, s'est mis en difficulté. Il a le droit de le dire. Ce n'est pas un scoop. Les entraîneurs français, aujourd'hui, ils se sont exportés parfois, de Arsène Wenger à Zidane, en passant par par De Nouex, qui est une star à la Real Sociedad, et Luis à Bilbao, Reynald De Nouex,
Paul Le Guen, Glasgow Rangers,
à Saint-Sébastien. Non, je t'assure, sans déconner, déconnons pas là-dessus. Et puis, il y a des périodes où c'est moins bien.
Montagnier aussi.
On est dans ce cas actuellement. Mais qu'il fasse attention, Longoria. Il est en train de bâtir une équipe avec un entraîneur étranger, comme disait l'autre, qui a intérêt à être bon l'année prochaine. Qui a intérêt,
mais toi,
qui a intérêt
ouais,
à gagner
mais,
les matchs.
Ouais, mais, je comprends. Ouais, mais Jean-Michel, sur le fond, il a raison, mais pas mais sur oui, la forme sur le, ni sur le timing.
Mais tout
en
le
fait.
Monde mais Jean-Louis, si toi, tu as envie de dire que les entraîneurs français... Ils ont le droit, et ce serait bien qu'ils progressent, qu'ils soient meilleurs sur le plan offensif, sur le plan de l'orée. Tu as le droit de le dire, ça ne va pas faire trois pages dans El País, on est bien d'accord. Mais après,
ouais, mais même lui, Jean-Michel, il a le droit de le dire, Longoria, je suis désolé.
Mais c'est ce que je t'ai dit en début.
Non, mais
il a le droit de le dire, mais attention, prends bien le virage.
Oui, je pense qu'il a calculé. Il sait très bien qu'en disant ça, je pense pas, en effet, qu'il se rendait compte que certains allaient défendre aussi fort. Demande la boutique de l'entraîneur
Jérôme,
français.
Si un consultant étranger dit que t'es nul.
Ça arrivera pas ça, mais
s'il y a des critiques, de réagir, non, mais, tu vois, ça
oui, mais sauf que la critique,
alors que sur le fond, il a raison.
Oui, non, mais
Ouais. Je déconne.
Mais ce qui est possible. Mais encore une fois, la critique, elle doit faire avancer les choses. Moi, en fait, ce que je reproche juste, les propos de Longoria, je pense qu'il y a des propos qui ont soit été mal interprétés parce que, en effet, il a parlé à la presse espagnole. Mm-hmm. Ça serait bien qu'il fasse la même chose avec la presse française. Un article dans l'équipe, par exemple, où il passe le temps, peut-être pour rectifier certaines choses qu'il a maladroitement dites, mm-hmm. parce qu'il y a des choses qui sont pas vraies dans ce qu'il a dit, ou il est dans le faux dans tous les cas. Mais tu peux pas retenir de cette interview-là que le négatif. Dire forcément la critique, elle doit faire avancer les choses. Alors, et que ça soit toujours les mêmes entraîneurs français qui réagissent de la sorte en se braquant, en disant, mais non, nous, ici, la formation, nous, on est bons, les entraîneurs français. Et si on s'exporte.
La formation, tu sais pas. La formation, il y a guère mieux à l'Europe.
Non, mais c'est vrai. Regardez Deschamps.
Non, mais ça, c'est trop facile. Dire, au bout d'un moment, il faut aussi balayer devant ta porte. Le fait que certains se braquent comme ça, désolé.
Ils n'ont pas envie.
S'ils avaient envie de progresser, ils essayeraient de retenir le positif de ce qu'a dit Longoria et peut-être de se mettre autour d'une table et essayer de parler.
La musique, je croyais qu'ils avaient envie. J'ai dit stop.
Mais ils n'ont pas envie.
On continue dans une seconde.
Parce que eux, tout ce qu'ils font, c'est parfait, soi-disant.
C'est incroyable.
La plupart, c'est pas parfait.
Excusez-moi, vous n'avez rien.
Confiant dans la nature humaine, moi. Je
dans une seconde, Rudy Garcia sur le sujet. On l'a pas entendu encore, l'entraîneur de Lyon. On va donner la parole également à Marc-Antoine au 32-16. A tout de suite, on continue le débat dans Roten Régal.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
18h17, toujours dans Roten Régal, bien sûr, avec Jean-Louis Tour, avec Jean-Michel Larquier. On continue notre débat sur le discours de Pablo Longoria.
Exactement. Alors que je reçois des messages d'entraîneurs français qui nous écoutent.
Non.
Et qu'on embrasse, bien sûr. Avec qui on parle très régulièrement sur RMC. Alors, on continue le débat. Effectivement, Longoria a-t-il eu tort de critiquer les entraîneurs français? C'est qui, à ton avis, qui est l'entraîneur français qui est avec nous dans la Dream Team?
Écoute, celui qui a failli s'y tout fait hier.
Voilà. Il tient tout rouge.
Ouais, je
s'ils ne sont pas contents, ils ont 40 ans.
Il m'a envoyé. Oh, je le dis, c'est pas grave. S'il m'en veut, c'est pas grave. Il m'a envoyé. Si tu l'invites à manger chez toi, il va dire que c'est de la merde le lendemain, non? Voilà, bref. Alors, Rudy Garcia, on n'a pas encore entendu.
Si tu m'avais dit ça, j'aurais tout de suite.
Oui, sûrement. Donc, Rudy Garcia, l'entraîneur de Lyon, sur le sujet. Alors, lui, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec Longoria sur plein d'aspects. Et il a également mis en avant le fait que les médias en France ne défendaient pas suffisamment les entraîneurs français.
Je peux pas être d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a trop d'exemples de joueurs qui sont pas des joueurs individualistes, qui ont été formés par des entraîneurs français. Il y a qu'à voir qui joue en ce moment à l'étranger. Il y en a beaucoup des joueurs français. Il y a des entraîneurs français avec des parcours, notamment à l'étranger, qui ont été fabuleux. Il a peut-être raison sur le fait que on n'est peut-être pas assez nombreux, notamment dans les championnats majeurs. Très honnêtement, il n'y a pas moins de qualité dans les entraîneurs français qu'il y en a dans les entraîneurs à l'étranger. Il y a des très bons partout et en France particulièrement.
Et il a ajouté donc, il faudra aussi peut-être qu'on soit davantage soutenu par nos médias nationaux. Moi, je suis allé en Italie, dit Garcia, et je vois comment les entraîneurs étrangers sont jugés par rapport aux entraîneurs italiens, parce qu'il y a une protection des entraîneurs maison et une mise en avant des entraîneurs maison.
Ça veut dire, en fait, tu compares avec la culture de chaque pays. Chaque pays est différent. Déjà, on le dit souvent, le foot, même si c'est le sport majeur ici en France, on n'a pas la culture foot. On n'est pas comme en Italie, comme en Espagne, comme au Portugal, comme en Angleterre, comme en Allemagne, tu vois, où eux, t'as vraiment le sentiment que les gens vivent pour le foot. Donc déjà, ça, t'as ce côté-là où tu peux pas défendre ta boutique en interne. Et après, il y a aussi être juste. C'est pas parce que t'es français que tu pars avec un avantage sur l'entraîneur étranger. Moi, je constate juste que ce que tu vois, et il l'a dit, Rudy Garcia, alors peut-être maladroitement aussi, il dit, il y a des très bons entraîneurs en France. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on les met pas assez en lumière, mais quand ils bossent bien, j'ai l'impression que les médias, et je commence par nous, On les met en avant. Galtier, on le met en avant. Dalloglio, on le met en avant. Guillon, quand il a pris Reims, on l'a mis en avant.
Combien de fois vous êtes écharpé tous les deux avec Jean-Michel sur les entraîneurs français? C'est arrivé plein de fois.
Moi, je suis intransigeant.
Garcia va te dire qu'à l'étranger, ce genre de débat n'arrive pas parce que l'entraîneur national est défendu.
Je suis intransigeant sur les entraîneurs français qui ont des moyens. Vraiment, qui sont au-dessus de la moyenne en France et qui n'y arrivent pas. C'est pour ça que je suis intransigeant avec les entraîneurs de Lyon, par exemple, parce qu'à Lyon, Jean-Michel Aulas, on peut dire ce qu'on veut, mais il leur a donné beaucoup de moyens. Ouais. Sauf que Genesio, je trouve que c'était insuffisant. Rudy Garcia, je trouve que c'est insuffisant. Oui, c'est la vérité. Et comme par hasard, c'est les entraîneurs français.
Jérôme, tu prends un exemple bien précis à Lyon. Avec tout le respect que j'ai pour ce club, moi, le Stéphanois. D'accord. Mais quand tu as beaucoup d'entraîneurs qui passent à l'Olympique Lyonnais et qui ont tous à peu près, comment dirais-je, les mêmes résultats. De Puel à Genesio, à Garcia, en passant par Genesio. Tu peux pas
Me retiens que les dernières années. Paul Le Guen a été champion. Paul Le Guen a été champion. Jacques Santini a été champion.
Oui, mais Gérard Rouillet. Suis d'accord. depuis quelques temps, il n'y arrive plus, Lyon. Il n'y arrive plus.
Oui, non, mais.
Ils n'ont pas la même équipe, donc.
Jean-Michel, c'est de la faute.
Ils n'ont surtout pas les mêmes adversaires.
Mais moi, pour moi, c'est de la faute des entraîneurs. Et je vais te dire pourquoi c'est de la faute des entraîneurs, parce que t'entends les discours. Me dis pas qu'à Lyon, qu'il ne soit pas champion de France. OK, parce que ce n'est pas les mêmes équipes que sur les premières années des années 2000. Mais après, tu peux quand même gagner, ne serait-ce que de temps en temps, un trophée. Il y a la Coupe de la Ligue qui n'existe plus, elle était là, il y a d'autres clubs qui l'ont gagnée.
Saint-Étienne, par exemple.
Sur les dernières années, tu me parles des dernières années, la Coupe de la Ligue existait, la Coupe de France, elle a toujours existé, le championnat, il y a des équipes, mis à part le Paris Saint-Germain, qui ont réussi à être champion, Monaco, Montpellier, entre autres.
Tu as tout dit, Jérôme, en disant je suis intransigeant. La différence, c'est que moi, je suis assez tolérant. Là-dessus.
Mais comment tu peux être tolérant quand t'as Lyon dans les mains
et que parce que c'est ma nature, tu vas pas me changer non plus.
Mais arrête, t'es pas intransigeant, t'es plus sévère avec d'autres entraîneurs. Bah avec des entraîneurs étrangers, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus sévère.
Non, je suis pas sévère. Mais c'est pas vrai.
Dis-moi.
Sur Tourelle, par exemple, au Paris Saint-Germain, je n'ai pas été sévère avec Tourelle.
Non, c'est le mauvais exemple.
J'ai été sévère simplement avec la façon dont on a présenté l'arrivée de Tourelle. On a dit Tourelle est arrivé, vous allez voir, avec les stars, ils vont marcher droit, ça va être au pas, il n'y a pas une tête qui va dépasser, tout le monde sur le petit doigt sur la couture du pantalon.
Là, t'avais raison. Ça t'a donné raison.
Mais t'étais pas à la retraite quand Tourelle est arrivé, surtout.
Et puis pendant deux ou trois mois, c'est l'état de grâce.
Oui, mais
c'est sympa d'un côté, c'est tout de l'autre, et puis d'un coup d'un seul, t'as tout qui s'effondre.
Et ben moi je vais te donner un contre-exemple sur le fait que je pense que t'es beaucoup plus dur avec les entraîneurs étrangers. Je vais te donner l'exemple de Kovacs à Monaco. Franchement, je t'ai rarement vu depuis le début de l'année dire des bonnes choses
jamais,
de Kovacs.
Jamais.
Alors vu non, entendu peut-être. Ça c'est
vu ou non. Entendu.
Entendu.
Oui, entendu. Entendu. Bon. Je pense. Mais oui.
On va pas faire une revue d'entraîneur.
Si ça avait été un entraîneur français, je suis sûr que t'en aurais beaucoup plus parlé. Non.
C'est probable.
Bon, mais donnons la parole à Marc-Antoine qui patiente au 32-16. Salut Marc-Antoine.
Oui, bonjour à tous.
Salut Marco.
Salut Marc-Antoine.
Ouais, salut. Je voudrais juste commencer par remercier Captain, parce que à chaque fois que je l'entends à l'émission, ça me rappelle les matchs de l'équipe de France quand j'étais tout minot avec mon grand-père et mon défunt grand-père. Donc,
ton arrière-grand-père aussi, non?
Et Marc-Antoine, arrête là, parce que m'envoies un petit peu.
Marco, t'as raison de le remercier, parce que dans un mois, vous l'annoncez, il est à la retraite.
C'est la dixième fois,
mais il reviendra, je pense que fin août, il revient.
Il arrête en juin, il revient en août.
Allez Marc-Antoine, on t'écoute sur les entraîneurs français.
Alors, moi je suis quand même assez d'accord pour une fois avec Jérôme.
Pour une fois?
Pour une fois, parce que bon, je suis supporter marseillais déjà dans une première.
Je t'ai fait rêver, Marco, donc c'est pas grave.
Oui, quand j'étais sur le banc, ouais. mais non, moi je veux dire juste une chose, je suis pas tout à fait d'accord à 100% avec Longoria, mais il faut pas non plus lui faire un procès d'intention, lui tomber dessus.
Bien sûr.
Parce que il critique pas. si vous voulez, pour s'en donner à cœur joie, l'ex-entraîneur français, parce que ça fait que depuis récemment là qu'il est président de Marseille, même avant directeur sportif, ça fait pas très longtemps, mais il fait simplement un constat, d'autant plus que c'est dans une interview, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas allé trouver la presse en disant le niveau d'entraîneur français en France est mauvais. Il répond simplement à des questions. Après, il fait le même constat que vous. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, comme d'habitude, tous les jours, depuis très longtemps, j'écoutais le Moscat juste avant. Et en fait, on nous dit, Moscat disait, Vincent, il disait, il n'est pas légitime pour parler parce qu'il est jeune et parce qu'il n'a pas joué au ballon. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a combien d'entraîneurs dans d'autres sports. C'était Vincent qui disait ça. Mais dans d'autres sports qui n'ont pas joué à ce sport, qui sont des très très bons entraîneurs, des très grands entraîneurs.
Ouais, en plus, il est pas, Marc, Antoine, il est pas entraîneur, Longoria.
Non, il n'est pas entraîneur, c'est justement ça qui est un petit peu ennuyeux. Parce que, bon, un entraîneur, en général, qu'il soit français ou étranger, défend sa profession. Non, mais simplement, Marc-Antoine, je le répète encore une fois, si vous ne l'avez pas bien compris, il a le droit de le dire. C'est pas un scoop.
Il fait un constat.
Contrairement à ce que je dis, à ce que dit Jérôme, je pense que les entraîneurs français ont envie de faire passer un vrai message et de progresser. Ce n'est pas l'avis de Jérôme. Et je respecte la vie.
T'es d'accord
de
sur
Jérôme.
Certains cas, quand
simplement,
même.
Simplement, Marc-Antoine, attention, parce que il est aujourd'hui, les entraîneurs français, toutes les semaines, l'année prochaine, en tant que président, tu vois, je fais l'impasse sur la fin de saison, toute la saison, il va les rencontrer. Et ça risque d'être un peu compliqué pour lui.
On va en rester là sur le sujet. Merci Marc-Antoine.
Merci Marc-Antoine.
Tu reviens quand tu veux sur RMC.
À bientôt.
Salut Marc-Antoine.
Dans une seconde, la prolongation possible de Mbappé. Est-ce que le projet sportif est le principal argument? C'est le débat dans l'élève contre le maître. Jean-Michel veut y revenir. À tout de suite.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
18h-29, toujours dans Roten Régal, bien sûr, avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. On continue nos débats. Là, maintenant, c'est l'élève contre le maître, Jean-Louis.
Et le programme du journal moyen cette semaine, c'est avec Julien Richard. Salut, Julien.
Salut, les gars. Salut à toutes et à tous. Et qui dit semaine de Ligue des Champions, dit semaine premium sur les antennes d'RMC et RMC Sport 1. Donc, on aura du Jérôme Roten premium. On aura du Moscar premium, hein, Jean-Louis. Oui. Des analyses premium. On prendra des nouvelles également du rat de Jérôme Roten. Jérôme a perdu au ping-pong. Hein, il doit manger un rat qui a bien failli s'envoler. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Et puis Jean-Michel Larquet est un chat. Et j'ai la preuve de ce que j'avance.
Très
bien. En dis pas plus.
Et ben on le saura dans un quart d'heure.
Ça a bien changé.
C'est pas sur la souplesse.
Ah non, il manque de souplesse. Ouais. Attends, là tu peux plus. Là, il touche plus ses pieds. Hein.
Allez, tout de suite, Mbappé.
RMC.
C'est lui une grande manito.
Non, c'est Jean-Michel.
J'ai désespérément besoin de votre sagesse.
Je me suis régalé comme.
Oh merde.
Le maître contre l'élève.
Comme jamais.
Alors, Captain,
j'ai la bouche pleine.
Tu voulais revenir sur les propos de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, cette semaine après la qualif contre le Bayern. Lorsqu'il a été interrogé sur les prolongations de contrat de Neymar et Mbappé, il a dit ils n'ont plus aucune excuse, sous-entendu, ils n'ont plus aucune raison pour partir. Et ça t'a fait bondir?
Non, ça ne m'a pas fait bondir. Je n'imagine pas une seule fois que Nasser, je vais l'appeler comme ça parce que j'écorche toujours son nom, que le président du Paris Saint-Germain soit à ce point naïf, parce que certes, ils sont qualifiés désormais pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ce qui est fabuleux, après avoir été qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions et l'avoir disputée. Donc s'il y avait bien un moment où l'état d'esprit et où le projet sportif dont je n'ai pas vu la première ligne, le premier mot de la première ligne. Parce que si quelqu'un me donne le projet sportif en 10 lignes du Paris Saint-Germain, je suis preneur. Hein.
C'est-à-dire
quel est le projet sportif du PSG?
Quel est le projet sportif du Paris Saint-Germain?
Gagner la Ligue des Champions,
Ça, c'est un projet sportif, ça?
Qu'est-ce que tu appelles projet sportif, alors? Si tu ne te fixes pas d'ambition.
Toi qui aimes la construction d'une équipe, une identité de club.
C'est le cas.
Jérôme.
C'est le cas. T'as des joueurs qui sont inscrits dans la durée au PSG. Donc, ils ont bâti avec des joueurs qui sont là depuis 7, 8 ans, 9 ans.
Aujourd'hui, au niveau du jeu, c'est pas le, c'est pas le, le thème de la discussion. Mmh. Au niveau de l'identité de jeu, le Paris Saint-Germain a une véritable identité de jeu, c'est sûr.
Non, mais ils ont changé. Bah oui, non, mais ils ont changé d'entraîneur. Non,
mais le projet sportif. Bon, le projet sportif, pour moi, c'est du pipeau. Alors, je ne vais pas être excessif comme les Manu Petit en disant ce n'est qu'une histoire de pognon. Et, mais il met la pression pas trop sur Neymar, puisqu'apparemment, oui, selon Mohamed, il va rester. Il met la pression sur Mbappé. Je ne pensais pas, mais une seconde, Jérôme. Dis-lui à Nasser, toi qui as tes entrées au Paris Saint-Germain, dis-lui, il a surtout des invitations, ne pense pas.
Ça, c'est logique.
Une seule seconde, que c'est parce qu'il va disputer une demi-finale, qu'il va disputer une finale, ou qu'il va gagner la Ligue des Champions, que ce sera l'argument déterminant pour la prolongation de contrat de Mbappé. Hein. Je n'y crois pas. Alors, je suis peut-être. Moi,
pour toi, c'est quoi? C'est juste le chèque? Juste le salaire? L'argument.
Non.
Aujourd'hui, chez les Mbappé, c'est évidemment parce que, en plus, s'il gagne la Ligue des Champions, j'essaie de raisonner par l'absurde, ce qui est possible. S'il gagne la Ligue des Champions, il aurait encore moins de raisons, selon Nasser, de partir.
Oui.
Eh bien, moi, je pense que s'il gagne la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, il a encore plus des raisons de partir. Parce qu'il ne peut pas faire mieux. Donc, il ira voir ailleurs pour faire autre chose.
Tu n'es
pas d'accord, Jérôme?
Pas là-dessus. Pas sur la dernière phrase de Jean-Michel.
Comme on dit dans les cours de récréation, et tout à l'heure, je l'ai dit à Jean-Louis, je pense que si... Comme argument, il prend ça pour la prolongation, c'est-à-dire le fait d'être qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et d'avoir fait des brillantes performances et contre le Bayern et contre Barcelone auparavant, je pense qu'il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein.
Jérôme,
c'est pas ça qui déterminera la prolongation du contrat.
Pour répondre à Nasser, quand il tient ce discours-là, c'est une façon aussi de se rassurer. Parce qu'il essaye depuis des mois, en effet, de prolonger Kylian Mbappé. Il a réussi avec Neymar. Il n'y arrive pas avec Kylian parce que Kylian a un plan de carrière. Et moi, je vous le dis depuis, et je suis pas le seul à le dire, mais c'est très clair. Dire si aujourd'hui, il a pas prolongé, c'est pas à cause de l'argent. Parce que l'argent, je pense qu'en restant à Paris, il en gagnera plus qu'ailleurs. Ça, c'est une certitude. Après, il en gagnera beaucoup aussi ailleurs parce qu'aujourd'hui, il a un niveau de salaire. Je pense qu'il peut se permettre de perdre 5-10 millions sur l'année. Je pense qu'il se sentira pas lésé de ce côté-là. Je pense qu'il raisonne, en effet, que sur le plan personnel. Et le plan personnel, ce qui veut dire le sportif, dans le sens où je suis dans tel club, j'ai plus de chances de gagner des titres, mais aussi de briller et de donner un envol important à ma carrière. Aujourd'hui, c'est pas une tare en soi de dire que Kylian Mbappé résonne dans le sens où je suis à la fin d'un cycle. Ça fait 4 ans qu'il est au PSG. Est-ce que ça va se continuer? Est-ce que j'ai les arguments pour continuer au PSG et toujours apporter un maximum? Bien sûr, qui sait que sportivement, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est peut-être une des équipes les mieux armées en Europe, d'un point de vue financier et d'un point de vue sportif avec les joueurs qu'il a, pour gagner la Ligue des Champions. C'est une certitude. Aujourd'hui, il le confirme. C'est la deuxième année de suite qu'ils font une demi-finale de Ligue des Champions. L'année dernière, même si c'est une autre formule, c'était une finale. Là, cette année, enfin, dans ce contexte-là, avec la vraie méthode, la vraie formule de la Ligue des Champions, c'est la première année qu'ils passent le cap des quarts de finale, qu'ils arrivent en demi-finale. Donc, il y a une progression. Donc Kylian, je ne pense pas qu'il se pose la question là-dessus.
Jérôme, moi je pense qu'il y a aussi la réussite collective, la réussite de l'équipe, les titres. Il y a aussi quelque part, et tu ne peux pas l'empêcher quand tu as ce niveau de qualité et de talent, la réussite individuelle. Moi je pense qu'aujourd'hui, à ce jour, je ne sais pas si ça durera encore longtemps, mais Mbappé... il est quand même dans l'ombre d'un très grand joueur.
Ouais, je suis pas sûr que aujourd'hui ça fasse. Il y a quelques temps, j'avais le même raisonnement que toi. Aujourd'hui, on le voit de toute façon.
Le match retour contre le Bayern, Jérôme, ce que fait le Brésilien,
c'est exceptionnel.
Ah, mais si vous allez par là, la question c'est si le PSG gagne la Ligue des Champions, qui gagne le Ballon d'Or?
Non, non, mais
entre Neymar et Mbappé.
Oui, c'est ça. Mais peut-être, c'est ça la réflexion.
Mais Jérôme,
si t'as un joueur.
C'est au-dessus de tout le monde.
Ce que fait Neymar. Neymar, je le dis depuis qu'il est là. Après, on aime ou pas son état d'esprit. Moi, il m'a déçu plein de fois. Et encore dernièrement, quand tu vois l'attitude, et on en avait parlé là, dans Rotten Régal, mais aussi ailleurs, contre Lille, bien sûr que tu sens que le mec, putain, il est là. Lui, pour de bon, il n'est pas forcément là que pour le sportif. On est d'accord. Sauf que Mbappé, il a un autre raisonnement. Et Mbappé, il est pas. Et même si tu as l'impression qu'il l'a dit, même lui, qu'il se sent au-dessus des autres, fort, et c'est ce qui lui permet de continuer sa progression. Il a un plan de carrière dans sa tête. Et ça, il faut l'accepter. Avec Neymar ou sans Neymar, il a un plan de carrière. Et peut-être qu'en effet, ce plan de carrière-là, il s'était dit, quand j'ai signé 4 ans à Paris, 5 ans, au bout de 4 ans, peut-être que j'aurai envie d'aller voir ailleurs parce que j'aurai gagné des titres à Paris, j'aurai passé un cap et que... Pour redonner encore un envol à ma carrière, il va peut-être falloir que j'aille à l'étranger, dans certains pays. Non. Mon rêve, c'est peut-être le Real Madrid. Mais ça peut se comprendre. Mais ça n'a rien à voir avec les ambitions sportives ou financières du Paris Saint-Germain. Ça n'a rien à voir avec ça. De vivre dans l'ombre de Neymar ou pas.
Là, mais on parle, parce qu'aujourd'hui...
Non,
je pense quand même...
Non, Jean-Michel, laisse-moi finir là-dessus.
Mais Jérôme, tu le sais.
S'il va au Real Madrid, il aura... Il aura moins de chances, je pense, à mon sens, vu que le Real Madrid est en reconstruction, de gagner le Ballon d'Or et de gagner la Ligue des Champions. Moi, je le pense.
Jérôme, est-ce que tu as entendu Platini faire des éloges de Zidane? Ils sont comme ça. Ils veulent être les premiers. Et c'est pour ça qu'ils ont du talent et qu'ils sont exceptionnels. Et Kylian Mbappé, il veut être le premier.
Oui.
Or, aujourd'hui...
Sauf que si Kylian Mbappé, il finit meilleur buteur de la Ligue des Champions, il te fait gagner le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, qu'il fait un bel euro avec l'équipe de France, tu crois qu'ils vont filer le ballon d'or à Neymar ou à Mbappé?
Jérôme,
je te dis qu'il file à Mbappé.
Jérôme, il est champion du monde.
Oui.
Et bien qu'étant champion du monde, il est quand même, enfin par rapport, c'est mon avis,
ouais.
il est un peu dans la roue de Neymar.
Oui, mais il est dans la roue de Neymar. Pourquoi, Jean-Michel? Là, ça n'a rien à voir avec l'image du joueur ou le charisme du joueur ou le palmarès du joueur. C'est juste les qualités. Aujourd'hui, moi, je le dis depuis le début, et c'est pas parce que Kylian est français et qu'on doit défendre absolument le joueur français. C'est un joueur exceptionnel, mais Neymar, quand il est bien physiquement, Neymar, franchement, il n'y a pas d'équivalent.
Vas-y, le pari, après
Jérôme,
Jonathan.
Jérôme, tu fais un petit pari. Qu'est-ce qu'on parie?
De quoi?
Prolonge ou il ne prolonge pas?
Qui? Mbappé? Moi, je pense que s'il a une offre réelle qui lui correspond, qui correspond au PSG du Real Madrid, je pense qu'il va partir.
Prenons l'avis de Jonathan.
Et Ligue des Champions,
toi,
pas Ligue des Champions.
Et toi, quoi, Jean-Michel?
Sinon, il aurait re-signé avant.
Ça tarde trop. Oui, moi aussi, je trouve.
Donc, il s'en va.
Je suis dans Rotten Régal. Bah,
il n'y a pas de pari, en fait. Il n'y a pas de pari, puisque vous êtes d'accord.
Oui.
Allez, Jonathan, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut, Jonathan.
Alors, qu'est-ce que t'en penses?
J'ai écouté le combat de coq, là, entre Jérôme et Jean-Michel, là, qui était intense.
Ouais, c'est un jeune coq avec une vieille poupe.
C'est une poule mouillée, tu
vois. Ce que je voudrais dire sur Mbappé, sur sa prolongation de contrat avec le fameux projet sportif du PSG, je rejoins un peu Jérôme sur ce qu'il disait, c'est que je pense pas que ça soit une question de projet sportif. Je pense que, comme je disais au Standard, Mbappé, il a un rêve depuis gamin. Son idole, c'est Ronaldo, le Real de Madrid. Alors, on parle beaucoup de Liverpool aussi, mais je pense que dans sa tête, c'est le Real de Madrid.
Real Madrid.
Et quand on a la possibilité de pouvoir vivre ce rêve aujourd'hui, d'aller dans un club. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le Real de Madrid, c'est pas le Real de Madrid d'il y a 2-3 ans.
C'est un Real de Madrid différent. Ils sont en demi-finale quand même, hein.
Mais je pense que il est omnibulé par cette idée d'aller au Real de Madrid. Et ce qu'il va falloir que Paris fasse là aujourd'hui, c'est de retarder ce désir-là, parce que finalement, ce désir-là, il l'a.
Et oui,
un jour ou l'autre, il ira au Real de Madrid. Alors, est-ce que ça va être aujourd'hui On sait pas. Moi, je
non, mais t'as raison, t'as raison. Mais Jonathan, voilà. Tu sais quoi, je vais, on a quand même le fait que Paris, depuis un certain temps, essaye de le faire prolonger. Ça fait maintenant plus d'un an, hein, que ça traîne comme ça. Et Paris n'a pas lâché parce que le clan Mbappé non plus n'a pas lâché. Donc, ils ont toujours l'espoir de prolonger. Mais pourquoi il a pas prolongé? Parce que je te rejoins. On sait pas si le Real aujourd'hui a les moyens de payer le transfert et de payer son transfert son salaire. Et
c'est financièrement, ça a un coût aussi
vu le contexte. Alors bon, moi ce qui me fait dire que ils vont avoir les moyens, c'est qu'ils ont pas recruté dernièrement, et c'est Fred Hermel qui nous le disait encore. Ils ont gardé un petit peu d'argent quand même s'ils sont en perte comme tous les clubs au monde aujourd'hui avec la crise.
Après, j'aimerais dire aussi une chose sur Mbappé au PSG. C'est vrai que pendant très longtemps, même moi en tant que supporter parisien, je suis un très grand supporter, hein. Depuis plus de 20 ans, mais je me suis toujours dit dans ma tête que un joueur français, donc Mbappé en l'occurrence, ne pourrait pas être Ballon d'Or en jouant dans un club français, en l'occurrence le PSG.
Non, ça c'est fou.
Jonathan, tu me l'as enlevé de la bouche.
Mais arrête, Jonathan, arrête.
J'ai pas le droit de. Mais si j'ai pas le droit de parler d'Anthony, je fais comme Roland, je m'en vais, je deviens tout rouge et je m'en vais.
Non, mais tu as le droit de parler dans cette émission, mais Jérôme a le droit de ne pas être d'accord avec toi.
Non, mais oui,
j'ai le droit d'être d'accord avec Jonathan.
Ouais, mais là-dessus, je pense que vous êtes tous les deux, vous êtes pas dans le vrai.
Il gagne l'Euro et la Ligue des Champions.
Vous n'êtes pas dans le vrai parce que, je vais te dire, alors il l'a pas gagné après la Coupe du Monde. En effet, il a fini quatrième au Ballon d'Or. Mais bon, quatrième au jeune âge, alors que bon, il avait pas fait les saisons qu'il est en train de faire là, hein, où il marque beaucoup plus de buts, où il est décisif sur des grands matchs, que peut-être.
J'ai pas fini ma phrase.
Vas-y.
Ce que je voulais dire, c'est que c'était la sensation que j'avais avant.
Ah oui, d'accord.
Aujourd'hui, je pense vraiment que Mbappé peut être Ballon d'Or à Paris.
Mais bien sûr, voilà, exactement. On est d'accord.
Voilà. Neymar ou pas Neymar, il peut être Ballon d'Or à Paris.
Comme quoi, il faut toujours attendre la fin de la phrase.
Effectivement,
alors, je suis plus d'accord avec Jonathan.
Jonathan, merci d'être venu dans Rotten Régal.
Bravo, Jonathan.
Ah, putain, voilà. J'ai pris petit pont à l'aller et petit pont au retour.
Ah ouais, là, il t'a fait une petite roulette.
Little Bridge. Ouais.
Dans une seconde, la semaine premium, le journal moyen. À tout de suite.
RMC. 18h-20h. Rotten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Rotten.
18h48, toujours dans Rotten Régal. Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet et ma compagne, comme tout le temps, comme tous les vendredis. Jean-Louis, après 19h, c'est notre fameux multiplex, bien sûr.
Exactement. Tu veux le casting? Jean Baumel, évidemment, leader. Ouais. Édouard G.
Ah, il y a du poids.
Pour
là.
Évoquer Lyon. Pierre-Yves Leroux.
Il
y a Nantes, Lyon, il y a Angers, Rennes notamment.
Là, plus affûté.
Et attention, Nicolas Paul aussi.
Ah ouais, donc il y a vraiment du lourd. Hein. Ah, c'est tes amis.
Après 19.
C'est tes amis de resto,
oui.
Ça.
Oui, je les aime bien. Ouais. Ce sera après 19h, il y a plein de débats.
Je vous inviterai pas tous les soirs.
Aborder. Bon, ça va, t'as les moyens quand même.
Ouais, non, mais là, ça coûte.
D'ailleurs, tu pourrais faire un dîner de fin
vrai,
de
mais ça sera fait. Le jour, on le souhaite que les restos rouvrent le 15 mai, comme c'est annoncé.
Voilà. Je vais leur soumettre l'idée tout à l'heure.
Le 19 mai, on fait ça.
Très bien. Ce sera dans le multiplex Ligue 1.
Contre, parce que lui.
Allez, ce sera tout à l'heure. En attendant le journal moyen, Julien Richard.
Et à la une du journal moyen de la semaine dans Rotten Régal sur RMC. Semaine de Ligue des Champions, évidemment. Semaine premium sur les antennes d'RMC, RMC Sport 1. Du Moscar, des analyses premium, tout ça. Des nouvelles du rat de Jérôme, donc, qui a bien failli s'envoler. Et puis Jean-Michel Larquet, ce chat. Là aussi, j'en ai la preuve et vous allez entendre ça.
Attends,
peut-être pas dans la gorge, je sais pas. Vous écoutez RMC, il est 18h49.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Rotten Régal.
Ah, les frissons de la Ligue des Champions, le beau costume sous la doudoune, Jérôme, semaine premium sur les antennes d'RMC, RMC Sport 1, mardi PSG Bayern, notre père de commentateur Jérôme Sillon et Jérôme Premium Rotten.
C'est pas trop la règle ça, hein, Jérôme.
C'est plus le protocole. Eh oui, c'est à revenir en arrière.
C'est sûr, des fois c'est chiant.
Bah, c'est chiant.
C'est embêtant. Énervant.
Quelque chose me dit que comme tous les supporters parisiens, t'as souffert, Jérôme, pendant ce match.
Légèrement, oui.
Sur chaque occasion du Bayern, franchement, souffrance. Bah, moi, j'ai souffert. Tout le monde a souffert. Mmh. Heureusement, le PSG peut compter sur son gardien, là, Keylor, comment on dit.
s'il lui glisse un petit ballon, c'est un face-à-face avec Neymar. Première grosse alerte pour le Paris Saint-Germain.
Ah oui, Keylor Neymar, bien sûr.
Là, il fait tout dans cette équipe.
Bah, faut dire, c'est ça. Et Jean-Michel, t'as raison, il est partout. C'est un récital. Ouais. On l'a vu. Jérôme l'a vu particulièrement dans le but, ouais.
La plat du pied, Neymar, Navas. Oh, le pied, la main, oh, il sait pas trop. Oh. Là. Oh, il a pas de réussite plus, et puis derrière.
Ouais, bon, ouais, c'est pareil quoi.
Ouais, ça passe. On a compris. On a compris.
Pendant ce temps-là,
Jérôme, mais le pied sur le ballon du
calme. J'étais ébloui par Neymar, par le match de Neymar.
Le récital, ouais, c'est comme ça.
Ouais. C'est comme toi quand tu me commentais, tu me voyais partout sur le terrain.
Bien sûr.
Pendant ce temps-là, sur RMC, mesdames, messieurs,
merci d'enchaîner.
Coach Courbis.
Bon, attention, le carton jaune pour Colin Dagba qui a séché sur cette action Kingsley Coman.
Il est con.
Je vous l'avais dit, semaine premium, analyse premium. Donc, tiens, on va se mettre un petit peu de musique.
S'il n'est pas content, il a qu'à repartir chez lui. Hein.
Chez lui.
On est bien quand la musique adoucit les mœurs. Allez, un petit peu de musique. DJ Snake, on l'adore sur RMC. Ah oui. DJ Snake, Monsieur Serpent,
moi j'adore.
Comme l'appelle Jean-Michel Aulas.
DJ Snack.
Voilà. Donc DJ Snake, qui est un grand supporter du Paris Saint-Germain, vous le savez, qui après la qualification des Parisiens a tweeté cette très courte vidéo.
Au revoir.
Est-ce que vous savez qui dit ça?
Ah oui, ouais. Thomas Müller.
Thomas Müller. Et ouais, l'attaquant du Bayern Munich qui avait posté une vidéo. Alors c'était après le tirage au sort de Ligue des Champions Bayern Paris Saint-Germain.
Allez, Paris. Bonjour.
Bonjour.
Paris Saint-Germain. We are very happy.
Donc, il nous expliquait qu'il était très
Paris
content retrouver Grèce, Paris Saint-Germain, que les Français du club recevaient plein de messages, tout ça, qu'il était confiant surtout, il nous disait ça. Et il terminait donc cette petite vidéo par.
Au revoir.
Alors, ça avait fait un peu parler à l'époque, ça avait chiffonné un peu les supporters parisiens.
Ouais, voilà. Il était gentil.
Et DJ Snake s'en est souvenu.
Au revoir.
Et nous aussi, on lui dit.
Au revoir.
Au revoir.
Ah, tu le dis bien.
Thomas Müller. Allez.
On voit les cours d'allemand,
Jérôme.
À Ovidor
Zen. Le bébé avec le bien.
Ah, les Moscars. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une expression française mal utilisée. On n'a pas les bons mots au bon endroit, quoi.
Le genre
de choses qui n'arriveraient pas, par exemple, à Jean-Louis Tour. Diction parfaite, vocabulaire impeccable.
Il est propre sur lui.
Il n'est pas aux commandes de Top of the Foot pour rien, quand même.
Je sais ce qui arrive.
Il y avait un peu de ketchup sur la chemise. Non, mais c'est vrai, je l'ai noté. Le kebab, il a débordé.
Jamais de Moscars, donc pour Jean-Louis Tour.
On embrasse Yano qui ne pourra pas commenter le match ce soir à PSG Bayern. Arnaud Valadon sera là au commentaire ce soir pour le remplacer au pied de guerre. Voilà. Donc, dans une seconde,
il est bien au pied de guerre.
C'est quoi, au pied de nez, hein?
Il y a l'arqué qui a sauté. L'arqué, il a sauté à pied loin. Ah oui, oui.
J'ai senti Jean-Michel très, très taquin ce jour-là.
Qui est bien, en tout cas, d'avoir un bon camarade à côté.
Ouais, qui te
voilà. C'est ça, merci Jean-Michel.
Ça n'arriverait pas non plus à Jérôme.
Le Big Bang, c'est deux choses qui se cognent l'une contre l'autre pour que ça fasse quelque chose de la Terre, quoi.
Merci Daniel. C'est l'after. C'était mercredi soir, 23h57, fin de l'after.
Ah,
on se dit au revoir, mais Daniel a oublié de dire un truc à Jérôme Rotten. Vas-y Daniel.
Sinon, j'ai reçu un message d'un ami qui s'appelle Cyril. Jérôme, c'est bon, il a trouvé ton rat en fait. Bon, et il l'a.
Mais il n'y a pas de problème.
Pas de problème, pas de problème pour ceux qui n'ont pas suivi. Jérôme Rotten s'était chauffé tout seul, parti de ping-pong face à Mohamed Bouafsi. Si je perds, je mange un rat. Bon, mais il a perdu. et il va donc manger un rat. Et j'ai quand même l'impression que Jérôme a un peu séché les cours de bio au collège.
Ah, toi, tu vas me donner un rat qui a bouffé de la
mort. Un rat d'égout.
Ouais, un rat d'égout.
Non, il a le droit
de mettre un rat propre. Non, mais il est propre, il sera déplumé.
En plus, c'est meilleur sur les plumes.
C'est que je me suis rattrapé juste derrière. Ah,
totalement.
Ouais, mais il coupe.
Ouais.
Non, pas du tout. Alors, ce serait mal de le connaître.
Ouais, pardon.
Mais ça, grand, t'es parisien, donc les rats, on connaît. Les...
Ouais, mais ça sera pas un rat de là. Hein.
Allez, on enchaîne.
C'est chiffre et des lettres.
Pourquoi? Parce que l'After, c'est une émission formidable qui va fêter ses 15 ans bientôt.
C'est bien, c'est beau de
c'est
l'émission
scolaires.
Préférée de Jean-Michel. Ça.
Ouais. On apprend plein de choses. Gilbert met un point d'honneur à Gilbert Rubois à apporter bien de la connaissance, du savoir à ces jeunes qui nous écoutent là pendant les vacances, notamment cette semaine, révision de maths.
Bon, revenons à Dortmund parce que là, on va voir ce que va faire City. City qui enchaîne les victoires depuis quelques temps. Je crois qu'ils en sont à. C'est quoi la série là? C'est 27 sur 26 matchs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bernardo.
Bien sûr.
27 victoires en Valence.
C'est beau.
Ça, ils sont forts.
C'est fort. C'est très fort. C'est, on vous dit qu'ils sont forts. Allez, vous reprendrez bien un petit coup de premium.
Oui, avec plaisir.
Parce que bon, il y avait Eric Dimeco aussi qui était premium cette semaine. Le commentaire de Real Liverpool sur RMC Sport 1 avec son compère Jérôme Sillon.
Liverpool a laissé passer sa chance en première
fin
période.
Du match, bravo Real. Liverpool éliminé par le Real. Jean-Baptiste Boursier reprend la main pour le débrief dans quelques secondes. C'est premium et on va tous avoir droit à une analyse premium d'Eric Dimeco.
Dans quelques secondes, le résumé long format de cette rencontre pour connaître enfin l'adversaire du PSG. À tout de suite.
À tout de suite. Mmh. Ouais. On attend l'analyse premium d'Eric.
Eric, il faudra compter avec Zidane et ses hommes. Hein, le Real.
Ce match vous a été présenté par Gazprom.
Ah oui.
C'est très bien.
Bravo Eric. Ah, elle était bonne.
Et Jean-Michel Le Chat.
On n'a pas trop le temps.
On n'a pas le temps, c'est pas grave.
Non, on n'a pas le temps.
C'est pas grave, on le fera la semaine prochaine.
Morgane Maury, vous.
Exactement. Merci Julien Richard.
Merci Julien.
Dans une seconde, Multiplex Ligue 1. On va lancer la 33e journée. Et surtout, on va savoir où est-ce que Jérôme va nous inviter à manger. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Roten Régal.
RMC,
18h-20h.
Roten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
19h sur RMC. Allez, la deuxième heure de Roten Régal, bien sûr, avec Jean-Michel Larquet, Jean-Louis Tour, toujours avec moi. Maintenant, c'est l'heure du multiplex. On va lancer la journée de championnat et bien sûr, multiplex étranger après.
Exactement, dans le multiplex étranger, Benzema prolonge au Real. Fred Hermel sera avec nous pour en parler. Il y a un gros Chelsea, Manchester City ce week-end en Angleterre. On sera avec Julien Laurence. On va évidemment surveiller City désormais jusqu'au match face au PSG. Et puis le quiz de Roten Régal, 32-16, bien sûr, pour vous inscrire. Ce sera tout à l'heure, mais tout de suite, c'est parti, on lance la 33e journée de Ligue 1.
RMC, Roten Régal.
Et la casquette qui sale, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette qui sale.
Le multiplex.
Le multiplex, c'est tous les vendredis dans Roten Régal à 19h. Contrairement à un multiplex classique où on commande des buts, là on donne des infos avec nos correspondants en région. Avec ce soir donc le leader Jean Baumel dans le Nord. Ouais. Salut Djibo.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut Captain. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Son équipe la mieux classée, quatrième, c'est Edouard G. Salut Edouard.
Salut à tous.
Salut Edouard.
Salut.
Et là on redescend un peu au classement. On va éviter de le regarder. Mais Pierre-Yves Leroux est avec nous, notre correspondant de l'Ouest. Salut Pierre-Yves.
On ne se moque pas. Salut. Bonsoir messieurs.
Non, Rennes est 7ème quand même.
Ça va.
Voilà, ça
oui,
va
oui, oui, oui.
Ouais.
Si on regarde toutes les équipes de l'Ouest,
il en a tellement.
C'est plutôt la fin de classe.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, puis t'es gâté, t'as Genesio maintenant. Donc là c'est un régal.
Alors là j'ai dû descendre sur mon écran pour aller tout en bas du classement pour accueillir Nicolas Paul Orsi, notre correspondant.
Alors voilà. Salut Nico.
Salut les gars, salut à tous. Je vois que vous avez remis Julien Landry au frigo.
Oui.
C'est vrai qu'il a pas été très bon la semaine dernière.
Le frigo, je suis pas sûr qu'il rentre dans le frigo. Mais...
oui,
c'est dans une chambre froide.
Ouais. C'est claqué.
Alors, il est plutôt à le vider le frigo.
Avant de commencer nos débats, vous avez eu la bonne info, messieurs, tout à l'heure. Le resto, c'est fait. Hein. Il y aura un resto offert par Jérôme.
Exactement. Je vous invite.
Je vous invite et chacun et je vous invite, il a dit. Oula,
je vous invite et chacun paiera.
Et chacun paiera sa part.
Moi j'amène le reblochon, tout va bien.
Mais on fait ça où? À Paris? Donc faut attendre qu'ils montent à Paris tous?
Bah oui, je vais pas aller faire les.
Ouais, surtout attendre que le restaurant rouvre quand même.
Bah là il a dit le 15 mai,
Jérôme. Le 15 mai, c'est
il a ses infos. C'est bon. Bon, très bien.
Sinon, après, on va chez toi alors.
Sinon, on va chez Chalençon, c'est bon, c'est ouvert.
Oui, on peut s'organiser un dîner sinon.
Et
Jean-Michel le connaît parce qu'il y était la semaine dernière.
Bah c'est vrai. N'est-ce pas Jean-Michel?
On a entré plat dessert.
Ah, j'ai très bien mangé. Très bien mangé. Alors... Un peu cher pour ce qu'il y a dans l'assiette, mais très bien mangé.
Excuse-moi Edouard, mais c'est évident entrée plat dessert. Enfin, moi je fais pas un dîner avec tout le monde sans entrée plat dessert.
Vu le gabarit ceux que j'invite, je peux te dire qu'il y aura même il y aura même l'apéro au départ.
Hein. Ah, ça va te coûter cher en tout cas.
Oui, écoute, c'est avec plaisir.
On n'est pas des petits mangeurs.
Pour Gibo et pour Edouard, c'est fromage et dessert.
Ah oui,
et c'est moi qui apporte le fromage.
Alors, Julien Landry me dit que son billet de train est prêt.
Ouais,
déjà pris. Allez. Allez, on y va, messieurs. On débat autour de la 33e journée de Ligue 1. On va commencer donc par Lille, le leader. Est-ce que Galtier est en train d'allumer des contre-feux pour masquer la méforme de certains joueurs, Gibo?
Bah écoute, hier il a mis un petit coup en conf de presse par rapport à On a senti, hein, c'était pas nous les journalistes qui tuent, on veut viser, c'était Frédéric Antonetti, parce que la question qui lui a été posée en ce moment, Lille, Mike Maignan brille, défensivement c'est vrai, c'est la meilleure défense avec seulement 19 buts encaissés, et il trouvait que c'était un peu réducteur de penser que Lille ne jouait que défensivement, c'est vrai parce qu'il met toujours des joueurs offensifs, mais il a reconnu que ces derniers temps c'était pas génial, c'est vrai que le match contre Metz, il gagne 2-0, mais franchement c'était pas terrible, il y avait eu la défaite contre Nîmes, voilà, c'est le problème de Lille. On va dire en deuxième partie de saison, c'est que il y a plus de joueurs qui sont en forme tous en même temps, comme c'était un peu le cas en début de saison. Bamba, a plongé alors qu'il était super bon lors des six premiers mois. Yezice, c'est le montagne russe, hein, il avait fait une belle coupe d'Europe, de triplé. Arojo, c'était prometteur en début de saison, on ne le voit plus. Heureusement derrière, Yilmaz lui a pris le relais devant. Après, c'était David quand Yilmaz était blessé. Voilà, j'ai l'impression que Galtier attire un petit peu l'attention vers lui pour que ses joueurs soient tranquilles pour cette fin de saison qui s'annonce palpitante. D'ailleurs, il y a un beau tifo fait par les supporters, je vous le lis, c'est rapide. Ce dont nous rêvons, c'est de revoir Lille champion.
Ah, très beau, effectivement. Ouais. Alors, il y a des méformes en ce moment.
Oui, on constate de toute façon, après qu'il y ait des méformes, que en effet il y ait certains doutes, qu'il y a la pression d'aller de rentrer dans cette dernière ligne droite où il y a le titre à aller chercher. Ils y pensent forcément, même si Galtier n'a pas dit ouvertement on veut être champion de France, on joue le titre à l'intérieur. Ils en pensent et ça se voit par rapport à leurs prestations. Ouais. C'est vrai qu'ils ont eu un coup de moins bien avant la trêve internationale, hein, on en parlait avec Djibo, cette défaite contre Nîmes a laissé des traces, que quand tu reviens de cette trêve internationale, il ne faut pas oublier quand même que le calendrier de Lille était loin d'être parfait, aller au Parc des Princes qui venait, le PSG venait de mettre une belle leçon à Lyon, qui est censé être la deuxième équipe, meilleure équipe de France, donc forcément ils sont arrivés sur la pointe des pieds avec une tactique très défensive, mais c'est ce qu'il fallait faire pour battre le PSG, ils ont réussi derrière, du mal en effet, le match à Metz n'est pas terrible, mais il le gagne quand même à l'arrache, mais il le gagne avec un grand Maignan. Et aujourd'hui, on va lui reprocher d'être un entraîneur défensif. Non, je trouve que les critiques, elles vont trop loin. Il a réussi à l'expliquer. En effet,
il est un peu susceptible quand même.
Mais non, mais c'est normal. Écoute, vu la saison que Lille fait, franchement, Lille était
en qu'est-ce que ça peut faire qu'on dise que c'est une entraîneur?
Non, mais on lui disait déjà à l'époque de Saint-Etienne, donc ça l'énerve. Je crois que un petit relent
Ça l'énerve dans un sens, Jean-Louis, c'est normal que ça énerve. Alors que c'est pas le cas
et que c'est pas grave en fait. Ben
oui,
c'est pas
le cas. À force de prendre des critiques comme ça, il faut quand même avoir. Alors je dis pas qu'il faut avoir joué au football pour en parler avec Galtier et comprendre Galtier. Mais quand t'es joueur de foot, que tu vis une année qui est exceptionnelle, où t'es moins bien physiquement et c'est le cas. Djibo nous parlait des joueurs offensifs. En effet, ils sont moins flamboyants. Oui. Les choix de Galtier aussi. Tiens, dans ta tête, tu peux te dire, écoute, là on va prendre un peu moins de risques. En effet, les résultats tournent toujours pour nous. On a gagné deux matchs de suite. Et ben, on va essayer de continuer comme ça. Et puis derrière, peut-être qu'on va retrouver les étincelles qui faisaient de nous une équipe très spectaculaire. En tout cas, c'est normal, c'est logique. Parce qu'aujourd'hui, le match, c'est encore une fois, à chaque match, chaque joueur de championnat, on va dire, c'est des tournants. Mais là, aujourd'hui, franchement, s'ils arrivent à battre Montpellier, je vois pas comment on pourra aller les chercher, du moins les autres.
Ça te donne en plus un joker pour aller à Lyon la semaine prochaine.
En plus, Jean-Michel.
Non, mais je j'imagine deux secondes l'état de stress, d'anxiété, d'espoir, enfin tout ce qui peut se mélanger dans la tête de Galtier. Donc qu'il soit susceptible, c'est pas le mot qui
je veux dire, il prend la mouche parce qu'on lui dit qu'il est un très bon gardien, ça va.
Mais c'est qui convient. Non, oui, enfin, ça veut dire que le reste est nul. Non, il est sur des charbons ardents. C'est terrible. Il a peut-être le titre, son premier gros titre à portée de la main. Moi, je suis pas aussi optimiste que vous. Hein. Je pense que ça va être compliqué jusqu'à la dernière seconde pour Lille.
Ouais, de toute façon, c'est souvent le cas avec des équipes. Quand le championnat est très serré, ça se resserre. Oui.
Ils peuvent pas jouer comme contre Metz les six prochains matchs. C'est pas possible.
C'est si pour c'est ça, que ça risque d'être pas. Compliqué jusqu'à la dernière seconde.
On est d'accord. Ouais.
Lille, on le rappelle, qui joue ce soir, donc ce sera évidemment sur RMC.
Déjà ce soir, c'est compliqué.
Bah, exactement. On va de l'autre côté du classement. Le bas de tableau, la lutte pour le maintien et le FC Nantes. Pierre-Yves,
est-ce qui que est le... très mal.
Nantes est très mal, mais le petit motif d'espoir, c'est peut-être le calendrier.
Bah peut-être. Alors on rappelle que c'est Lyon hein, demain, donc là c'est oui. ça commence mal.
Mais c'est plutôt pour le calendrier.
Ouais, c'est bien.
C'est plutôt sur les 5 matchs qui suivent, parce que il y aura Brest, Strasbourg et Dijon à l'extérieur, et les Nantais recevront Bordeaux et Montpellier pour finir. Ça veut dire que ils vont jouer le 14e, le 15e, le 16e, le 20e et le 8e.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça peut être quand même un élément d'espoir après ce match contre Lyon où ça risque d'être compliqué. Et pour vous donner une petite idée sur ces 6 matchs en comptant Lyon, sur les matchs allés, ils avaient pris 6 points. Donc ça suffira très certainement pas. Ils sont toujours sur un rythme finalement d'un point par match s'ils sont sur ce rythme-là. Ce qui embête surtout Antoine Comboiré, même si lui il dit je fais pas de calcul, c'est surtout qu'il n'y a pas de clean sheet. Le dernier clean sheet, c'est 0-0 contre Rennes le 6 janvier. Et au total, il n'y en a eu que 2 sur le championnat contre Bordeaux et Lorient, qui prennent beaucoup de points.
C'est la clé, ça, dans la course au maintien, la défense.
De toute façon,
c'est des clés.
Oui, mais tu vois la situation de Nantes aujourd'hui. Moi, je veux bien que le calendrier semble pas. Tu joues pas les 5 meilleures équipes du championnat, mis à part Lyon demain. Non, mais il reste 6 matchs. Tu gagnes pas un match à domicile. Tu montres vraiment des lacunes sur le terrain. Non, mais c'est vrai. Et puis défensivement.
C'est
comment tu veux faire un clean sheet avec les joueurs qu'il y a à Nantes aujourd'hui? Le gardien, vous l'avez vu, le gardien. Alors, je veux bien, Lafond, c'est le gardien de l'équipe de France Espoir. Mais si c'est ça la relève, il va falloir qu'il progresse, le coco. Hein. Parce que franchement, Lafond, c'est un match de bon sur 3. T'as besoin aussi d'avoir un gardien qui te rassure à la défense. Il n'y a pas que les défenseurs.
Non, mais c'est l'une des clés. Mais la clé principale, le handicap principal de ces équipes qui sont en difficulté, c'est comment marquer un but. C'est surtout ça qui est compliqué pour eux.
Ah oui, mais si t'en prends et que t'arrives pas à marquer, c'est sûr que ça va être compliqué.
C'est encore plus compliqué que de ne pas en prendre. Parce que c'est famélique. Je pense que c'est surtout sur le plan offensif et notamment à Nantes.
19h10, Dijon, c'est l'heure.
Dijon, n'en parlons pas. Nantes, c'est pas
Dijon. Dijon, on parle encore là.
Quasiment Ligue 2. C'est l'heure du premier tour des stades. 4 infos et vous me dites ce que vous retenez. On va commencer par Lyon, donc l'adversaire de Nantes, dimanche 21h avec un retour important, Edouard G.
Oui, normalement, Oussem Aouar devrait être dans le groupe demain soir pour donné par Rudy Garcia pour le match de dimanche. En tout cas, il est apte, il a fait une séance collective cette semaine et donc il va pouvoir rentrer dans les rotations de cette fin de saison. Mais va-t-il déjà dès dimanche jouer du côté de Nantes? A priori, non. Rudy Garcia a plutôt expliqué qu'il va plutôt aider l'équipe en milieu de semaine. Ça sera en Coupe de France. Et la phrase du jour de Rudy Garcia, c'est à propos de la pression. Nous n'en avons pas. On est quatrième. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive de pire? Rien. Donc il faut qu'on compte que sur nous-mêmes et de prendre le plus de risques possible.
Bordeaux-Monaco, ce sera dimanche 17h05. Des infos compos côté bordelais, Nico?
Oui, avec Gassé qui a tout son effectif à disposition. Hein. Il n'y a que Otavio qui est blessé, Samuel Kalou aussi. Sinon, ils sont tous là. Ben Arfa est revenu physiquement. Bon, il n'a pas été transcendant face à Saint-Etienne. C'est le moins qu'on puisse dire, pas concerné du tout. mais en tout cas, Gassé a tous ses joueurs à disposition.
Oui, voilà.
Allez, à choix.
Le débat sur Bordeaux arrive, ce ne sera pas sur Ben Arfa, sachez-le. Rennes, de son côté, se déplace chez le voisin à Angers. C'est demain à 12h45. Et on rêve d'Europe à Rennes, Pierre-Yves.
Pourquoi pas, ils sont revenus dans le match, hein. Ils sont à 4 points de Lens et à 1 point de Marseille. Et surtout, ils ont pris 10 points sur 12, Jérôme.
Non, c'est vrai, c'est
Genesio.
Pep revient.
Et puis surtout, ils auront le retour de suspension de Jérémy Doku. Donc ça peut être bien. En revanche, mauvaise nouvelle, hein. On rappelle que Jonas Martin va être opéré de la cheville. Sa saison est terminée. On se demande même si son passage à Rennes a commencé un jour. Hein,
oui, t'as raison. Ouais. Lens, dimanche, est à Brest à 15h. Où on en est niveau Covid, Jean Bommel?
Alors, 7 cas au total, plus Soto qui est touché au mollet. Mais l'espoir pour Francaise, il le disait tout à l'heure en conférence de presse, de récupérer un voire trois joueurs, les premiers touchés par le Covid. Ouais. Alors ils sont quatre concernés, c'est Badé, Fofana, Ganago, Mauricio. S'il y en a trois, ce serait le top, ce serait un des quatre que je viens de citer. Sinon un, voire peut-être zéro, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a plus d'espoir de retrouver les joueurs que d'en perdre.
Alors Jérôme, qu'est-ce qu'on retient?
Bah, les quatre Covid à Lens, parce que quand t'as autant de joueurs comme ça, où t'es obligé de te priver. Alors, je te dis pas que Lens est la moins bonne équipe, le groupe est très élargi, mais tu sens l'impact quand même. Donc, et puis Lens ne n'a plus trop le droit à l'erreur non plus. Il y a une course, on parlait de Rennes qui peut revenir, Marseille, voilà, Lens doit continuer à avancer.
Dans une seconde, le multiplex Ligue 1 continue autour de la 33e journée. Le changement de système va-t-il porter Lyon jusqu'en fin de saison? Et attention, Bordeaux va-t-il redresser la barre sur ces 6 dernières journées? C'est possible, Nico va nous le dire dans une seconde, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten Régal, Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h14, toujours dans Roten Régal, bien sûr, Jean-Michel Larquet, Jean-Louis Tour. Allez, Jean-Louis, on continue notre multiplex avec les correspondants. Ils sont très bons aujourd'hui.
Ça dépend lesquels. Ouais. On est avec Jean Baumel, Pierre Imbleroux.
Quand il n'y a pas Julien Landry, tout de suite.
Édouard G, Nicolas Bollard, que vous venez d'entendre. Mais on va pas tout de suite sur Bordeaux, on va sur Lyon. Lyon qui donc est à Nantes dimanche à 21h, avec ce fameux changement de système, est-ce que ça peut porter Lyon jusqu'à la fin, Édouard?
Eh bien, en tout cas, c'est peut-être l'espoir du staff, parce qu'il y avait déjà un constat, une donnée, l'essoufflement du 4-3-3 et des hommes. Alors certes, ce système avait porté l'OL à l'automne dans la série des 16 matchs, avait même, sans défaite, ça avait même porté l'OL en tête du championnat, et c'est d'ailleurs l'un des arguments de Rudy Garcia à chaque fois. Ben, on utilise ce système qui avait fonctionné, sauf que les hommes se sont essoufflés. Par exemple, Karl Toko Ekambi a marqué que 3 buts en 2021 et une seule passe décisive. Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere, lui, c'est 3 buts et 0 assist. Et puis ces hommes se sont aussi blessés, Tino Kadewere récemment, et Rudy Garcia l'a reconnu aujourd'hui. On a un groupe qui a tendance à s'endormir quand ça va bien, et parfois de positionner les joueurs de manière différente, ça met les joueurs en éveil. Cela oblige aussi les attaquants à défendre différemment, et on l'a vu face à Angers, on a eu ce côté bagarreur, ce dépassement de fonction, ce jeu plus vertical avec Cacré, notamment à la baguette, avec Lucas Paqueta, avec Islam Slimani, et notamment par rapport à Lucas Paqueta. Bien, Rudy Garcia a évoqué aujourd'hui son placement, parce que pour lui, c'est moins ce 4-2-3-1 que le placement de Lucas Paqueta, qui était plus proche des attaquants et qui donc a amené plus de désordre, on va dire, dans la défense angevine. Voilà les données aujourd'hui de Rudy Garcia. Il y a le changement, mais il y a aussi le placement de Lucas Paqueta. Est-ce que tout ça va porter les Lyonnais jusqu'à la fin de saison? En tout cas, c'est l'espoir du staff.
Et c'est Jérôme qui va répondre à cette question.
Non, mais moi en fait, dès qu'il y a quelque chose qui change, ça y est, c'est magnifique. Alors déjà, ils ont mis le temps. Il a mis le temps, Rudy Garcia, à changer quelque chose. Après, c'est plus le choix des hommes, plus que du système. Alors après, on peut jouer sur les mots, en effet. Mais tu pourrais dire aussi, par moment, c'est un 4-3-3 avec Paqueta qui est dans le milieu de terrain. Et,
oui, après, le but, c'est que Paqueta soit plus haut.
Mais Paqueta, dans tous les cas, même quand il jouait en 4-3-3, il était capable d'aller plus haut.
Ouais, mais il n'y allait pas trop.
Mais si, on l'a vu proche de Depay. Il a fait des passes décisives à Depay. Mais si, arrête, me dis pas beaucoup. C'est juste une question de d'appréhension du match. Comment tu comprends avec...
Je vous rassure, il y a des milieux de terrain, tu ne vois jamais la surface de réparation.
Mais non, mais arrête. Mais Paqueta, non. Paqueta, on le voit depuis le début. Après, que en effet, Depay est passé.
Faire une place à Slimani,
Slimani en pointe. Voilà. Depay, il passe côté gauche. Bon, bah écoute, avant, t'avais Toko Ekambi côté gauche, t'avais Kadewere à droite et Depay dans l'axe. Là, il met Slimani. Slimani, il va pas le mettre, il est droit ou il est gauche. Et encore, des fois, il a essayé. Donc, son poste, c'est dans l'axe.
Il met
pas Depay avec un changement de système vraiment, réellement. Tu veux que je te dise ce que c'était? C'était Depay avec Slimani dans l'axe.
Un vrai casquette.
Et jouer à quatre au milieu, sauf que là, en plus, Cacré et Edouard nous le disaient. Cacré, il comprend pas. C'est son joueur fétiche, son petit chouchou. C'est vrai que dernièrement, du moins sur le dernier match,
c'est le chouchou d'Edouard plus que de Garcia.
Ouais, d'Edouard.
Oui,
bah oui, mais Cacré, t'as fait énormément de bien sur le dernier match. Outre le changement de système, c'est les hommes qui se sont éclatés.
Il a aussi sorti Thiago Mendes.
Et puis, parce que c'est un changement d'homme. Et puis après, il faut pas se leurrer. Souvent, quand t'as ce collectif-là avec des joueurs comme Cacré qui font du bien au milieu de terrain, c'est les individualités qui font la différence. Quand t'as un Paqueta qui est inspiré comme il a été le dernier match, comme Depay, c'est sûr que c'est plus facile pour Lyon de gagner des matchs de Ligue 1. Donc,
Jean-Louis, pourquoi Jérôme s'énerve? C'est Nantes en face, faut quand même, ça devrait passer, je pense.
Tu veux dire, pas besoin de faire 5 minutes sur la tactique?
Non, mais je pense que ça devrait aller. Paqueta qui avait marqué son premier but en Ligue 1 contre Nantes.
Bravo, en l'occurrence, et je dirais bravo Juninho pour Paqueta, parce que Garcia n'en voulait pas, puis à l'arrivée, c'est son homme phare aujourd'hui.
Très bien.
Derrière, on a le match face à Lille et face à Monaco. Hein, donc, c'est pour ça que c'est important de roder le système.
Ouais, bah déjà, qui gagne celui-là avant de penser aux autres. Parce que...
Attention, messieurs, Bordeaux. Bordeaux reçoit Monaco dimanche à 17h. Attention, là.
On vient dans la région, là, c'est bien.
Là, t'as pas un teasing, y a pas un truc avant, non ?
Non, là, soyez bien concentrés. Bordeaux peut-il redresser la barre sur ces 6 dernières journées ? Parce qu'il s'est passé quelque chose de très important cette semaine, Nico.
Ah bon ? J'entends déjà vos rires moqueurs.
Non, vas-y, c'est quoi ?
Mais j'ai de l'espoir, les gars. J'ai de l'espoir parce que, bon, il y a eu la claque à Saint-Etienne, 4-1, et des joueurs et un staff.
Ils ont perdu à Saint-Etienne ? Bon.
Oui, mais bon, c'est une grosse équipe, Saint-Etienne. Et franchement, on a senti des joueurs et un staff technique complètement désabusés, mais comme jamais à Bordeaux. Et franchement, on avait très peur en début de semaine sur la fin de cette saison. Mais il y a eu un événement qui s'est passé. Alors, ils n'ont rien révolutionné, hein, les Girondins. Mais il y a eu une grosse réunion
mardi. Ils ont fait
une réunion. Ils ont fait une énorme réunion.
C'est pas juste un printemps qui a parlé quand même.
Non, mais alors, il y avait le staff, il y avait les joueurs, mais il y avait tous les salariés aussi qui touchaient au groupe pro. Et pour la première fois à Bordeaux depuis bien longtemps, en tout cas, c'est ce qui ressort des infos qu'on a de cette réunion, c'est qu'on a vraiment crevé les différents abcès. Les joueurs qui sont en conflit, alors je vais pas vous dire que ce sont devenus les meilleurs copains du monde, mais au moins ils ont fait un pas les uns envers les autres. Il y a une sorte de pacte qui s'est créé sur les 6 derniers matchs. Il y a des cadres qui sont sortis un petit peu du bois pour parler. C'est le cas notamment de Benoît Costil, qu'on va écouter. Benoît Costil, ça faisait un an et demi, alors que c'est l'ancien capitaine de Bordeaux qui venait plus en conférence de presse, et je vous l'ai dit plein de fois dans le multiplex de Rotten Regal, parce qu'il se protégeait, parce qu'il avait mal vécu certaines choses. On va écouter le discours fort de Benoît Costil.
Il faut avoir ce déclic et arrêter un petit peu de s'apitoyer sur notre sort. Croyez-moi qu'on n'a pas toujours été tendre avec nous-mêmes dans nos discussions. Et à un moment donné, il est peut-être temps d'arrêter d'être
ainsi,
de voir les choses un peu avec un peu plus de positivité. L'union fait la force, donc rassemblons-nous. On est ensemble, on va s'en sortir ensemble et on va faire ce qu'il faut. Et la saison prochaine, Bordeaux sera en Ligue 1.
Hey, il vous donne pas envie de se battre, Benoît Costil, là, les gars.
Venir avec lui, c'est parti.
C'est le professeur Raoult.
Alors, ce qui s'est aussi passé, c'est que la direction a recadré quelques cadres, mais en tout cas, ce qu'on nous a dit, c'est que l'ambiance de travail à l'entraînement était complètement différente de ces dernières semaines, et on a vu un gars assez souriant comme jamais en conf. On se dit qu'en interne, non, mais c'est vrai, Captain, des fois, il y a des signes, vous le savez, des fois, un petit déclic comme ça. Eh ben, moi, j'y crois, les gars.
Jean-Michel, j'ai une info.
Oui, quoi?
Ben, apparemment, ils ont fait un feu, ils sont mis autour, ils se sont tenus la main.
Ils ont mangé les chapeaux.
Et depuis, ça va mieux.
Et depuis, ça va mieux. Voilà, c'est ça.
Et les salariés ont même mis des chaussures de foot pour vraiment que ça soit un groupe soudé. Non, t'as l'impression qu'ils jouent avec eux.
Mais quoi, vous y croyez pas, ce genre de réunion?
Il y a Francis Lalanne qui a joué, qui a fait 2-3 chansons. Il paraît que c'était super sympa.
Non, Obispo.
Mais non, c'est Obispo à Bordeaux.
Ah non, mais là, il préfère Francis Lalanne parce que lui.
Il est occupé, la Francis Lalanne.
Lui, il connaît le foot. Le foot, il
sent les coups.
Ah ouais.
Non mais donc, ça sert à rien, ce genre de réunion.
Ah bah rien, bah c'est que dalle.
C'est franchement réunion sur réunion sur. T'as l'impression
qu'à
Bordeaux
il y a eu des joueurs.
Ah c'est ça le plus important.
Merci Jean-Louis d'essayer de me défendre, même si tu crois pas.
Et la mascotte était là ou pas? Parce que ça, c'est important.
Je vais être poli, un coup d'épée dans l'eau. C'est tout, hein.
Ramasser la mascotte.
Mais vous allez voir. Non, mais alors là, je prends le pari.
J'étais prévenu quand même.
Ouais. Non, mais j'étais préparé mentalement. Mais franchement, je prends le pari. Ouais. Et je reviens la semaine prochaine dans Rotten Regal. Dans le multiplex, vous pouvez vous moquer de moi si jamais Bordeaux explose complètement contre Monaco. Je suis sûr que dans les attitudes, on verra des choses différentes.
Et que Costil dise qu'il va être en Ligue 1, j'espère quand même. Qui va prendre un point.
Ah non, mais parle pas de Costil. Franchement, c'était génial.
C'est un grand gardien de but. Hein.
Un gladiateur.
Quel leader.
Pourquoi il parle pas tout le temps? Mais pourquoi il a attendu un an et demi pour parler?
Mais il te l'a dit, il se protégeait.
C'est quand même génial. Quoi.
Bon, allez, je m'en fous.
Oh, quel costard, dis donc.
Je me sens que les températures. Je crois qu'elle va être sympa, ma conférence de presse d'après-match, quand ils vont tous me retrouver.
Moi, franchement, possible, je mets Premier ministre sur le
coup. Ah ouais. Bon, alors, on n'a rien contre les Girondins.
Il n'y a plus de virus en une semaine, hein. Je peux te dire ça.
Si lui, contre Costil, contre les Girondins, etc.
Non, pas du tout.
Non, rien du tout. Ah non, allez. C'était contre Nico, surtout. Pas contre le club ou les joueurs. On y va.
J'embrasse Alain.
Alain Roche,
ouais, je lui souhaite bon courage.
Bah, bien sûr. Pas Ghislain Printemps.
Hein?
Non, il n'est plus là, Ghislain.
Non, mais attends,
il est toujours là.
C'est lui qui a fait le feu.
Jérôme. Ah ouais.
Et puis et pas avec des briquets. Hein. Je peux te dire, il sait faire le feu. Ah ouais, attends.
Gigi quoi.
Gigi qui est le médiateur.
Alain Giresse était là aussi.
Non, il est médiateur.
Non, il était pas là. Mais c'est vrai qu'il essaie d'être le médiateur, notamment dans le conflit qu'oppose la direction.
Alors, on pense très fort à Gigi.
Ouais. Moi, j'embrasse Duga aussi parce que quand il entend ça, on les va regretter de pas avoir fait la table ronde.
Il était peut-être là, je sais pas, Nico, il était peut-être là.
Oh, ah non, bon. Duga était pas là, non,
il était au golf.
Bon, allez, on y va. Deuxième tour des stades, 19h24, on reprend sur nos infos sérieuses après cet intermède au Lancy. Donc, Saint-Etienne, au parc, dimanche à 13h. Édouard, j'ai des nouvelles des blessés.
Eh bien, Jesse Moulin, Bazic, Riyad Boudbouz, Anthony Menes ne seront pas là. Il y a un doute sur Ivan Neyou pour un Claude Puel qui veut jouer les arbitres pour le titre en fin de saison. Alors, il a déjà joué contre Monaco, il a déjà joué contre Lyon. Il joue contre Paris ce week-end et à Lille le 11 mai prochain. On aime jouer ces matchs prestige. En un mois, on va affronter Paris et Lille. On doit avoir l'ambition de jouer les arbitres pour le titre, dit Claude Puel aujourd'hui.
Angers-Rennes, c'est demain 12h45. Côté Angevin, c'est la fin de l'ère Moulin cette saison. Son départ a été officialisé et ça en inquiète certains au club, Pierre-Yves Leroux.
Bah oui, c'est le dernier mois. On est entré dans le dernier mois de l'ère Moulin. On rappelle que Piqueux est parti, que c'était le triumvirat avec Chaban qu'on mettait souvent en avant. Donc ce club va devoir se réinventer et évidemment, ça inquiète un certain nombre de personnes parce qu'après 10 ans avec Stéphane Moulin, et on se dit que va devenir le SCO qui sera sans Fulgini, lésion au quadriceps pour le match face à Rennes et aussi pour le match de Coupe de France contre Paris.
Les infos sur la compo lilloise pour ce soir face à Montpellier, Jean Baumel.
Bah, la bonne nouvelle, c'est que Jonathan David est dans le groupe, hein. Je pense pas qu'il sera titulaire parce qu'on pensait le perdre pour un petit moment suite à la grosse blessure qu'il avait eue face à Gueye, face au Paris Saint-Germain. Puis, il y a seulement vraiment deux véritables absences, c'est Liadji et Pied, des joueurs qui sont pas hyper importants. Donc, pour Christophe Galtier, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Voilà.
Liadji, il y aura le choix en attaque. C'est pas important, Liadji?
Moyenne. Ouais, il joue pas énormément.
Ah, hein. Je pensais que c'était une pépite. Ça, je pense. Ouais.
Alors, dernière info, on retourne à Bordeaux, donc Bordeaux-Monaco dimanche.
Ah oui,
et oui,
la réunion
est
discours.
Parce que je dis,
il y a une nouvelle réunion.
Je vous dis que c'est la crise, et c'est la crise en quelques chiffres. C'est le plus faible total de points de l'histoire des Girondins de Bordeaux après 32 journées à ce stade de la compétition.
C'est fini, c'était avant ça.
Depuis 20 ans, jamais Bordeaux n'avait connu autant de défaites à ce stade de la compétition. C'est la deuxième plus mauvaise défense du 21e siècle à Bordeaux. Heureusement, il y a une réunion cette semaine. Quoi.
Merci. Voilà,
on est rassurés.
Donc, à faire une réunion, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'on retient, Jérôme?
Angers. Angers, parce que.
La fin de l'ère Moulin.
Ouais, la fin de l'ère Moulin. Et puis en plus, ça tombe bien. Parce que peut-être qu'Antoine Camboire sera sur le marché. Donc, au moins, qu'il fasse signer direct un contrat. Hein.
Très bien. Merci, Jérôme. Ouais. On s'est donc fâché avec la moitié de la Ligue 1 en 10 minutes. Merci, les gars. Jean Baumel, Édouard G, Pierre-Yves Leroux et spécialement Nicolas Paul.
Bonne soirée à tous.
Je sais pas si ça a été très constructif, mon intervention. Je suis pas sûr.
Non, la réunion entre nous, ce sera au resto avec Jérôme, bien sûr.
Bien évidemment.
C'est là qu'on la fera. Bon week-end, messieurs. La 33e journée de Ligue 1 en intégralité sur RMC tous les soirs, évidemment. La course au titre avec vous, messieurs, en région. Toutes les infos, c'est tous les vendredis également. Donc, dans Roten Régal. Dans une seconde, le multiplex européen. Benzema prolonge au Real. Et on vous donne des infos de City à quelques semaines du match face au PSG. À tout de suite.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
19h30, allez, la dernière demi-heure de Roten Régal, toujours sur RMC, bien sûr, avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Allez, Jean-Louis, maintenant, c'est le multiplex étranger. Et vous pouvez. Bien sûr, après, c'est le quiz.
Voilà, vous pouvez vous inscrire donc au 32-16 pour faire équipe soit avec Jérôme, soit avec Captain. On y va, le foot européen.
RMC, Roten Régal.
Multiplex européen.
Avec nous ce soir, Julien Laurence en Angleterre. Salut Julien.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut à tous.
Et Fred Hermel en Espagne. Salut Fred.
Hola chicos.
Salut Fredo. Juste avant de partir sur vos actus, messieurs, info de nos confrères de l'équipe, la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui débutera après 2024 serait sur le point d'être entérinée. Ah. Donc la fameuse nouvelle formule avec 36 clubs au lieu de 32, cette phase de poule où on joue pas contre tout le monde en aller-retour.
Voilà. Ah, le système suisse.
Je crois, oui.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Et donc, en tout cas, ce qu'il faudrait retenir de ça, c'est qu'il y aurait 3 qualifiés directement pour le foot français. Voilà.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Donc, voilà, les détails à peaufiner et à entériner très bientôt.
ce qui devrait normalement calmer les envies de Super League des grands clubs.
Totalement même.
Voilà. C'est le but en tout cas de cette réforme.
Exactement.
On en a parlé un peu dans vos pays où quelle est la tendance en Angleterre, Julien? Autour de
On a parlé effectivement, on en a parlé un petit peu forcément, oui, surtout avec l'histoire de la Super League, quelques clubs de Première League qui sont contre d'ailleurs la nouvelle formule de la Ligue des Champions aussi. Donc c'est vrai que ça a plutôt fait débat, encore une fois ici.
Et en Espagne, Fred,
c'est un sujet très très important. On sait que le leader de la fronde internationale, en tout cas européenne, contre la Super League, s'appelle Monsieur Tebas, le président de la Liga, et que le leader en faveur de la Super League, même s'il le dit pas, c'est Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Donc la question, c'est l'argent que vont recevoir les clubs. En fait, parce que les clubs qui ont envie d'être dans la Super League, les clubs qui seraient fondateurs de la Super League, estiment que l'UEFA garde trop d'argent et que, en fait, que les revenus, que eux prennent des risques, eux achètent des joueurs, font des stades, etc., mais que la majorité de l'argent va à l'UEFA, d'après ce que pensent ces clubs-là. Ouais. Donc, je pense qu'il est possible d'avoir des contre-offensives de la Super League. Je vois pas pourquoi cette annonce empêcherait les clubs fondateurs de la Super League d'essayer de mener à bien leur projet, parce que la base, c'est pas le format, c'est l'argent que récupèrent les clubs, parce que ils estiment qu'aujourd'hui c'est l'UEFA qui garde la plus grosse partie.
On verra l'évolution de cette Ligue des Champions et si ça calme les ardeurs ou non. L'actu de vos clubs, Manchester City, Julien, évidemment on va suivre avec beaucoup d'attention désormais Manchester City dans les 10 jours qui viennent jusqu'à la demi-finale aller de Ligue des Champions face au PSG. Ce week-end c'est match de cup, demi-finale à Chelsea.
C'est ça, à Wembley
contre Chelsea,
mais à Wembley, effectivement, les deux sont à Wembley, l'autre c'est Leicester Southampton, mais effectivement, gros match pour Manchester City. Rapidement sur Chelsea, qui est aussi qualifié en demi-finale, qui va affronter le Real Madrid de Fredo. Pour Thomas Tuchel, c'est un gros match, c'est la première fois qu'il va se confronter à Pep Guardiola depuis qu'ils ont tous les deux quitté l'Allemagne. Tuchel qui, on l'a déjà répété dans l'émission plusieurs fois, mais fait un début de carrière à Chelsea assez exceptionnel, lui qui a déjà battu Diego Simeone, qui a déjà battu Jurgen Klopp, qui a déjà battu Carlo Ancelotti, qui a déjà battu José Mourinho. Là, il va affronter donc Pep Guardiola. On va voir quelle approche il va avoir du match, dans quelle structure, quel choix tactique il va faire, quel plan de jeu aussi, qui pourrait d'ailleurs peut-être aider le PSG selon le résultat du match et selon la performance de Chelsea donc demain contre City à Wembley. On va voir, c'est vrai qu'il a apporté une stabilité défensive, ça c'est sûr, par rapport à ce qu'avait fait Lampard avec Chelsea. On se rappelle notamment de l'humiliation à domicile de Chelsea contre Manchester City en championnat et cette victoire 3-0, le génie absolu de Kevin De Bruyne notamment et une équipe de City son numéro 9, qui pourrait être le cas encore une fois contre le PSG et contre Chelsea demain aussi. Donc à voir comment Tuchel approche, et s'il y a peut-être pour le PSG en tout cas et pour nous quelques indices à comment arrêter cette machine de Manchester City qui est donc quasiment inarrêtable, même si elle a perdu contre Leeds le week-end dernier en championnat avec une équipe remaniée, certes, même si elle avait perdu contre United dans le derby aussi, là en revanche avec une vraie équipe type. Donc à voir comment effectivement Tuchel va approcher cette rencontre contre Pep Guardiola.
Ouais, surtout que en plus il y aura pas de décompression de la part de City. C'est vrai que c'est logique en championnat. Alors je te dis pas qu'ils l'ont cherché contre Leeds, parce que c'est quand même incroyable de perdre ce match avec autant de maîtrise et autant d'occasions. Mais bon, c'est la magie du football. Tu sentais quand même une décompression en championnat qui a montré certaines limites sur la double confrontation aussi contre Dortmund, où ça a pas été si facile que ça. Là, demain, c'est un match. Voilà, tu peux pas avoir de la gestion. Forcément, ils sont focalisés. C'est des compétiteurs. Ils ont envie de tout gagner. Donc, on verra vraiment si c'était juste de la gestion sur les dernières semaines et que là, City est reparti, ou si ils sont un petit peu dans le dur dans leur façon de fonctionner. Si c'est le cas, vraiment, Chelsea a un coup à jouer.
Ouais, c'est vrai. C'est une autre étape aussi dans la chasse au fameux quadruplé jamais réalisé dans l'histoire du football anglais, avec donc cette demi-finale demain, la finale de la Coupe de la Ligue, elle aussi qui aura lieu avant le match aller contre le PSG, puisque c'est donc le week-end prochain contre Tottenham, encore une fois à Wembley. Entre temps, il y aura un match de championnat contre Aston Villa en milieu de semaine prochaine. Ensuite, bien sûr, la demi-finale contre le PSG, et puis bien sûr le championnat qui est pas quasiment bouclé. Il leur faut encore 3 victoires sur les 7 derniers matchs, mais voilà, ce quadruplé incroyable qui serait incroyable. C'est bouclé, capitaine, c'est sûr, mais ce serait quand même un quadruplé assez phénoménal s'ils arrivent à aller jusqu'au bout dans toutes ces compétitions.
Mais on a été sévère sur City là, dans la double confrontation. Au match retour, j'ai trouvé quand même City plutôt bon, parce que les Allemands ont été bons hein, à Dortmund. Moi, je les ai trouvés bons. Il y a eu de bonnes choses et il fallait une bonne équipe de City pour s'en sortir. Donc,
il faut que tu sois meilleur défensivement. Il faudra être meilleur défensivement que Dortmund, Captain, parce que c'est là où finalement Dortmund a eu des soucis, même s'ils les ont plutôt bien contenus. Ils étaient très agressifs au milieu, ce qu'il faut faire contre Manchester City. Il faut être très bien organisé et très bien structuré parce que tu sais qu'ils jouent dans les demi-espaces. Ils attaquent souvent avec donc 5 joueurs sur toute la largeur du terrain, entre tes ailiers, tes milieux relayeurs qui entrent un petit peu à l'intérieur et ton numéro 9 ou faux numéro 9 devant, ces 5-là. Et donc c'est vrai qu'il faut être très bien coordonné, très bien se parler, très bien communiquer pour te passer les joueurs au marquage notamment, ouais, selon les zones dans lesquelles ils évoluent. Mais après, défensivement, il faut faire des matchs quasiment parfaits parce qu'ils vont forcément se créer des occasions. Et si t'as pas un grand gardien, si t'as pas des très bons latéraux et des défenseurs centraux qui sont aussi dans le bon tempo à chaque fois, dans le bon rythme, c'est là où tu souffres le plus finalement.
Voilà.
Ouais, exactement. Bah, écoute,
très bien. Merci Julien.
Merci.
Non, bravo, Jean-Michel, merci, voulait, parce que tu étais en conversation avec Jean-Michel et ouais, je pensais qu'il voulait en.
Bah, Jean-Michel n'avait pas envie de te répondre.
Dans sa conclusion, il a dit il faut un bon gardien, il faut une bonne défense centrale, des bons latéraux, un bon milieu de terrain et des très bons attaquants.
Et puis un gros collectif.
Parce que Captain, tu ne peux pas comparer.
Non, mais
on ne va pas comparer Kylian Navas et Marvin Hitz, par exemple, tu vois, ou même Matteo Morey, l'arrière droit de Dortmund, et un Florenzi à son meilleur niveau, par exemple. C'est pour ça, voilà.
Très bien, merci
bravo,
Julien.
Bravo Julien.
C'était excellent. Nous, on a trouvé ça excellent, Jean-Michel, un peu moins.
Moi, j'ai un 9 sur 10.
Bon week-end,
salut.
Alors, l'Espagne et l'info du jour, c'est la prolongation de Benzema au Real, Fred ?
Oui, enfin, c'est un peu un secret de polichinelle, quoi. Enfin, j'ai pas trop compris la une de Marca, en fait.
Il le savait depuis longtemps, hein, Fred.
Bah, non, bah, mais
bien sûr, ça fait trois mois qu'il nous le dit.
Sur les antennes, j'ai toujours dit, sur notre antenne, dans nos différentes émissions, quand il y avait la rumeur sur Lyon, moi, j'ai toujours dit que Benzema avait décidé et voulait terminer ses carrières au Real Madrid. Donc, cette prolongation, elle est tout à fait logique. D'autant plus que, en fait, Marca ne dit pas que c'est fait. Marca dit que Benzema a envie de rester, que le club a envie qu'il reste et qu'ils vont le prolonger cet été. Bah, je vais dire c'est normal puisque la règle est de contrat de Benzema se termine en 2022 et c'est un an avant, au mois de juillet, que commencent les négociations. Ouais. On sait qu'il y a un intérêt des deux côtés de continuer. Donc voilà, ça ne fait que confirmer ce qui est évident. Benzema a un niveau exceptionnel, on va pas revenir là-dessus. Le Real est content de Benzema. Après, je le vois mal le Real Madrid annoncer la prolongation de Benzema maintenant, alors que Ramos.
Que Ramos c'est pas fait, oui, bien sûr.
Pas fait. Ouais. Lucas Vázquez c'est pas fait. Ouais. Et Modric c'est pas fait. Et eux, leur contrat, il se termine dans 3 mois.
Et oui, c'est ça. Ouais.
Donc, deux mois et demi. Donc, c'est ravi. Et puis, c'est mon ami Pablo Polo qui a signé cette formation dans Marca. Donc, je suis ravi qu'il l'ait dit. Mais je veux dire, c'est une évidence. Ce n'est pas un scoop que d'annoncer que Benzema continue. Ouais. Donc, en tout cas, ça ne fait que confirmer que l'idée de revenir à Lyon peut exister, mais c'est pas pour maintenant.
Revenons sur la course au titre.
Veut rester tout le temps.
En France, la course au titre est passionnante. En Espagne, elle l'est d'autant plus. Aussi, ouais. Il y a 2 points d'écart entre le Barça 3e et l'Atlético 1er. Il y a le Real entre les deux. Et il y a encore 8 journées hein, en Espagne. C'est beaucoup. Hein. Nous, on en a 6, mais il y en a 8. C'est beaucoup encore en Espagne.
C'est beaucoup avec notamment un match qui va être hyper important, qui va être un Barcelone Atlético de Madrid. Donc donc l'Atlético a en fait encore son destin entre les mains.
Bah oui, puisqu'ils sont premiers, c'est sûr.
Ils sont premiers et en plus voilà, c'est important à dire.
Belle remarque.
Tu nous as fait une Nico Follower.
c'est quand même important.
Qui dit à tout le monde que t'es le meilleur correspondant étranger là, franchement, tu m'as pas vendu du rêve.
C'est vrai. Mais alors je vais vous donner une information, un scoop, c'est que le Real Madrid, elle a différence de but particulière qui compte en Espagne, favorable contre l'Atlético et contre le Barça.
Donc ça
balance. Voilà.
Et alors moi je balance aussi que ton Barça Atlético c'est le 8 mai. Donc voilà, il y a 4 journées avant ce match-là.
Et là ce week-end c'est quoi les matchs ?
Alors c'est derby de Madrid donc face à Retafe pour le Real. Ouais, c'est pas le derby de Madrid qui fait rêver mais quand même c'est Retafe.
Ouais, mais c'est compliqué. Retafe c'est toujours chiant.
Ouais, Retafe.
Et c'est Retafe ?
Ouais. Oui.
Ouais, c'est toujours
quoi ?
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais le stade là-bas?
Parce que ça pourrait être au Real.
Oui, tout à fait.
Oui, bien sûr.
Bon, les questions.
Jean-Louis,
tu fatigues en fin de parcours là ou quoi?
Ah, mais pourquoi il tombe dessus? Atlético Eibar, ça c'est demain à 16h15.
Celui-là,
ça c'est gagné.
Et Barcelone Grenade.
Malheureusement.
Non, mais c'est reporté parce qu'il y a la finale de la Coupe.
Eh oui.
Eh oui, d'accord. Ouais.
Ah oui, Barcelone-Grenade s'est reporté, effectivement.
Voilà. Oui, voilà. Parce qu'il y a Athletic Club de Bilbao contre Barcelone à 21h30 demain soir. La finale de la Coupe au stade de la Cartuja de Séville, le stade olympique. Donc, ça va être une belle finale quand même. Hein. Ce sont les deux clubs qui ont le plus de Coupe du Roi. La Coupe du Roi, et même avant, quand ça s'appelait la Coupe Généralissime. Vous savez, il faut faire pour l'information, quand il y avait un dictateur en Espagne.
La Coupe du Roi d'Espagne qui oppose.
L'Espagnol va nous parler.
Un Catalan contre. Non, mais c'est pas
nous en Espagnol, non?
La Coupe du Roi qui oppose un Catalan à un Basque, ça risque de.
Hein, mais alors, on va dire, pour une fois, on va pas regretter qu'il n'y ait pas de public, parce qu'au moins, l'hymne espagnol ne sera pas sifflé dans le stade, comme ça avait été le cas. Voilà. Ben, au moins, c'est déjà ça.
Alors, la Coupe du Roi, c'est super, pas de problème. Je reviens juste sur ma course au titre.
Commenter.
Non, mais.
T'aimes que les gros trucs, toi. Enfin, tu vois, une Coupe du Roi, c'est sympa,
quoi. Non, mais bien sûr que c'est sympa.
Les gros trucs, oui.
Non, Fred, tu nous dis depuis longtemps que tu as confiance en l'Atlético pour être champion. Tu nous as annoncé ça depuis un moment.
C'est ça, il y a deux mois.
Ouais, voilà, sauf que ça a un peu évolué.
Est-ce que tu as changé d'avis ou tu restes confiant?
La tendance n'est pas très favorable.
Non.
Quand même.
Ah non.
La tendance de l'Atlético n'est pas favorable du tout. En plus, il y a ce match à Barcelone. Donc, non, l'Atlético, c'est quand même. Pour moi et pour tout le monde, en tout cas en Espagne, l'énorme déception de la saison. C'est-à-dire qu'il y a eu le pire match que j'ai vu depuis des années, qui a été contre Chelsea, on s'en souvient tous, avec ses défenseurs. Je pense que ça va marquer l'image de Simeone pendant un moment. Et puis, l'Atlético, il y a 11 journées, avait 10 points d'avance et un match en retard.
Ouais.
Donc, virtuellement, 13 points d'avance. Et ils ont laisser fondre comme neige au soleil cette avance. Et donc, et l'autre jour, par exemple, le Real avait repris la tête en gagnant contre le Barça. L'Atlético se déplaçait à Séville contre le Betis. Ils n'ont pu accrocher qu'un petit point. Donc,
ils sont dans le dur. Ils récupèrent des joueurs, là, parce que
ça revient tout doucement. Mais c'est pas top. Physiquement, ils sont. Après, c'est un peu comme tout le monde. Quand Zizou dit que les joueurs sont sur la réserve, voilà, ils sont tous limite, quoi. Voilà.
Oui, de toute façon, on est dans une période, on en a déjà parlé. Là, c'est au mental et il faut s'accrocher.
Exactement.
Voilà,
Bon, et puis, puisque Captain Larquet me cherche et qu'il nous parle de ses goûts pour l'espagnol, on pourrait écouter cette démonstration d'interview en espagnol de
magnifique.
Tiens, j'enlève mon casque. Les projets qui étaient habillés vendidos, le Monaco, hay una diferencia frente a la realidad.
C'est très bien.
C'est très bien. On est arrivé à la fin de la question. On avait
tu l'as fait avec le dictionnaire sur les genoux ou tu l'as fait comme ça?
Ouais, il n'y a qu'une erreur, c'est proyecto. Jean-Michel a dit proyecto. Voilà. Proyecto.
Et tu me fais un compliment, Jean-Michel. C'est gentil. Je suis en train de lire ton livre, c'est ça la France.
Oui.
Et je m'endors tranquillement en ayant la conscience tranquille, Fred.
Oh bah c'est super. Voilà. Son bouquin, il te fait dormir, c'est ça que tu dis.
Ah oui,
là,
non,
super. Je m'endors après avoir lu 3 ou 4 chapitres.
Très bien. Allez, merci Fred.
Merci les amis.
Merci Fred.
À très vite.
Bonne soirée. Et bravo Fred.
Et n'oubliez pas, l'Atlético a son destin entre
les mains. C'est vrai que c'est important de le rappeler.
La différence de but.
Bravo Fred. Dans une seconde, l'affrontement, le réel affrontement de la semaine. C'est le quiz de Roten Régal.
RMC, Roten Régal, Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
19h47, allez, dans les 10 dernières minutes de Roten Régal sur RMC. Jean-Louis, c'est l'heure du quiz, allez, on y va.
RMC, Roten Régal.
Ah oui, bien sûr que c'est Jérôme. J'ai 3 secondes d'avance, c'est Jérôme.
Ben oui, tu les avais pas.
Oui, ça va, allez, arrêtons le massacre.
Le quiz.
Alors ce soir, pour jouer avec nous, notre fidèle Pierre est là. Salut Pierre.
Salut Pierre.
Oui, salut.
Ça va?
Oui, ça va, oui.
Bon, tu veux jouer avec qui aujourd'hui?
Avec Jérôme.
Bien sûr.
Allez,
bien
Pierre sûr, avec Pierre. Jérôme. Et Sifax est avec nous également. Allez. Salut Sifax.
Salut Sifax.
Salut Jérôme, salut Jean-Bi, salut tout le monde.
Sifax, c'est la première fois que j'ai ce prénom, Sifax.
Ouais, mais pourtant, je suis déjà passé une fois à l'époque de Larquet.
Ah, de Larquet Foot. Il s'en souvient plus.
Ah, FIFA, faut s'en souvenir normalement.
Ah, il se souvient du.
C'est même pas ce qu'il a mangé ce midi.
Il se souvient du nom de ses instituteurs, mais pas de ce qu'il a mangé ce midi.
Ouais, mais ça, ils étaient notés, c'est pour ça.
Ah oui, c'est ça.
Jean-Michel, on sera ensemble apparemment.
Oui, exactement. Jean-Michel avec Sifax. On y va. Il y a des questions d'actu, des citations, et puis on reviendra sur des matchs historiques. Alors, qui a dit aujourd'hui, il fut un temps où j'avais de très bonnes relations avec lui. C'était évident.
Floriente.
Qui?
Floriente.
Non. C'était évident, et puis du jour au lendemain, tout a changé. Ce qui est bizarre avec Mourinho.
Pierre.
C'est ça. Et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi.
Pogba.
Pogba, oui. Jean-Michel. Pogba. Il a dit Pogba.
Ouais, c'est, vrai, c'est vrai que c'est.
Non, parce que
mais on lui accorde. On lui
non, j'ai dit Pogba. Non,
tu lui accordes. Ça va être le dentier.
J'ai des questions autour du dernier PSG Saint-Etienne en championnat. Déjà, est-ce que vous avez le résultat? Une réponse possible.
5-0.
Non. Une réponse un possible. Non. Vous ne l'avez pas, visiblement.
2-1 pour
Pierre et Sifax, faut aller vite. Vous ne l'avez pas.
2-0.
C'était 4-0. 4-0, et ce soir-là.
C'est moi qui ai gagné, 7-0.
Non,
arrête.
Ce soir-là, est-ce que vous pouvez me donner un buteur?
Mbappé?
Non,
Cavani,
c'est bon. Jérôme, donnez-moi les cartes.
On l'a dit en même temps, mais évidemment.
Non, c'était Jérôme. À part Cavani, qui d'autre?
Neymar.
Non, pas Neymar.
Mbappé.
Mbappé.
Bah, l'autre, là.
Oui, l'autre. Di Maria, Sifax. Ça fait 2-1. Et donc, il y a eu 4-0, il y a eu 4 buteurs différents. Donc, les deux autres.
Marquinhos.
Non, sont plus difficiles à trouver.
Thiago Silva.
Non, Ozawa.
Draxler.
Non. Draxler, capitaine, bien joué. 3-1. Qui?
Choupo-Moting.
Non. C'est un, alors le dernier est difficile à trouver. Hein. C'était un jeune qui est parti depuis, qui est parti en Allemagne.
Kouassi.
Non.
Diaby?
Oui, Diaby, Jérôme, bien joué. 3-2. Est-ce que vous êtes capable?
Tu pourrais pas lui poser des questions que sur le Paris Saint-Germain, Bastia et Monaco. Ce serait pas mieux.
Bah, comment tu veux que je Saint-Etienne, tu connais pas Saint-Etienne?
Bah oui.
Ils ont marqué 0. Ils ont marqué 0 but.
Ça, j'y peux rien.
Comment veux-tu que je te donne un buteur de
Alors, je reviens aux citations. Qui a dit aujourd'hui, je lui ai fait part de la manière dont j'avais ressenti ses propos. Oui, Vieira, bien joué Pierre.
Bien joué Pierre.
La machine Pierre est lancée, 3 partout. On revient sur mon PSG Saint-Etienne.
Ouais Pierre, bravo Pierre, c'est bien Pierre. Félicitations Pierre, bravo Jérôme.
Bah quoi, c'est vrai Pierre.
Non, c'est après moi qu'il en a.
Pierre est dans un bon...
Non, il en a après moi. Bon, 3 partout. Attention, je reviens sur mon match là. Est-ce que vous êtes capable de me donner un arrière latéral de ce fameux PSG Saint-Etienne 4-0?
Debuchy.
Pas Marquinhos, pas Debuchy.
Thiago
Silva.
Florenzi.
Oui. Non, Meunier, pas Florenzi. Meunier.
Meunier,
Jérôme, c'est bon. Alors, il y avait Meunier, il y avait Bernat côté parisien et côté stéphanois, alors.
Bah, Troco.
Non.
Gabriel.
Gabriel Silva, c'est bon, Jérôme.
Ouais.
Et il y avait également Monet Paquet, figurez-vous, qui joue arrière droit ce soir-là.
Exact.
Belle trouvaille, ça. Alors, qui a dit aujourd'hui, tout ce que nous obtenons en ce moment de Foden, ça concerne le terrain?
Guardiola,
c'est facile. Jérôme, bien joué.
C'est facile, oui, mais 6-3. Je l'ai dit en même temps, mais il prend 3 secondes d'avance.
Dommage. 6-3.
Je l'ai dit en même temps.
Ouais.
Mais oui, j'ai 3 secondes.
Non, mais oui.
6-3. Sur le match de ce soir, que vous avez en tête, évidemment, entre Lille et Montpellier, qui a le meilleur ratio de buts inscrits en fonction du temps
Jonathan
joué
David.
À Lille. C'est pas Jonathan David.
Yazice.
C'est pas Yazice. C'est pas Ikoné.
Ikoné, Wea.
Non.
Yilmaz.
Oui, Yilmaz. Bien joué, Sifax. T'allais citer Maignan, capitaine, avant de dire Yilmaz. Comment ça se passe? Alors.
Bamba, j'ai dit.
Oui, mais t'as dit toute l'équipe après. Alors, qui a dit aujourd'hui? Je sais qu'à Barcelone, il m'aime beaucoup. Ça va être une décision difficile pour moi de savoir où je vais entraîner.
Non.
J'avais tout là-bas en plus, j'adorais ça. Oui, Yaya Touré, capitaine, bien joué. On a un match magnifique.
6-5.
Oh, franchement, on se régale.
Ouais.
Ça fait longtemps que j'avais pas vu un match comme ça.
Ouais, c'est une régalade.
Alors attention.
Là.
Question pour vous, Sifax et Pierre. Ah. Donc Jérôme et capitaine, oui, vous n'intervenez pas.
Allez, Pierre.
Qui est le meilleur buteur de l'histoire de Saint-Etienne?
Cabri.
Non.
Non.
Pardon. C'est pas Cazerie. Non, mais c'est dur. Si, c'est époque Jean-Michel Larquet.
Mais non. Bah, mais oui, l'avant-centre, ils étaient deux frères.
Arrête.
Sifax.
Ouais.
Non, c'est pas Crivelli.
Crivelli.
Il l'a dit.
Oui, Crivelli, mais c'est Sifax qui l'a dit. Pierre, il a dit Crivelli.
Non.
Il a dit Crivelli.
Non.
Mais oui, 6 partout.
6 partout, grâce à Sifax.
Ouais.
Et là, tout le monde joue. Qui est 19e de ce classement?
De classement de
meilleur buteur de l'histoire de Saint-Etienne. Non, t'es un peu plus
Larquet.
Haut. C'est un joueur en activité.
Bah Berić.
En activité.
Non, c'est le premier.
Amouma,
bien joué. C'est Sifax.
Oh. Ah, c'est allez, pas vrai de se faire avoir cette suite.
Allez, bravo, messieurs.
Attention, qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG maintenant?
Du PSG.
C'est pour Sifax et Pierre.
Cavani,
Sifax, bien joué.
Arrête, tu dis pas pour qui c'est.
Si, je l'ai dit.
Allez, c'est bon.
Non, mais attention,
non, mais restez concentrés. Et même question, qui est le meilleur buteur en activité qui est toujours au PSG?
Mbappé,
oui. Et là, c'est Jérôme qui arrive en premier. 8-6.
Non, 8-7, arrête.
Non, 8-6.
Mais non,
8-7, 8-6, c'est vrai, je recompte les points. 8-7.
Mais dis-lui de donner le score aussi.
Attention, qui est le meilleur buteur de Montpellier cette saison?
Delors.
Laborde.
C'est moi.
Et c'est Jérôme. C'est
moi. Bamba, moi.
Bamba. Mais
je suis con, quoi. Je suis
bon,
fou.
Balle de match.
T'as pas dit Ziobert aussi?
Balle de match, 8-8. Franchement, c'est un match exceptionnel. On se régale. La dernière question est la suivante. Je reviens à mon PSG Saint-Etienne. Le dernier PSG Saint-Etienne en Ligue 1 au Parc. Il y avait eu donc 4-0 à l'aller. Donnez-moi un milieu du PSG hors Verratti.
Hors Verratti, Draxler.
Non.
Gueye.
Non.
Herrera.
Non.
Danilo.
Non.
Meunier.
Non. Meunier.
Voici.
Non.
Marquinhos.
Non.
Paredes.
Non.
Coucou.
Oui, coucou Jean-Michel. Non, c'est pas ça.
Coucou.
Draxler. Mais c'était où le match?
Non. Au parc.
Non.
Pastore.
Ça remonte à plus longtemps qu'Herrera.
Ah putain.
Pastore.
Bon, un milieu de terrain qui a quitté le club depuis, évidemment. Les deux ont quitté le club. Non, pas.
Cabaye.
Non.
Mais putain, mais c'est qui ceux-là? C'est Tocard.
Oui, en bonne mère, c'est bien joué. Non, pas du tout. Bon. Mais alors ça va aller vite.
Matuidi.
Non.
Matuidi.
Rabiot.
Oui, Rabiot. Ouais. Jérôme, bien joué. Victoire de l'équipe. Et victoire de Pierre.
Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Je leur ai laissé. Je dis bon, ils vont quand même le dire.
Mais non.
Alors c'était Rabiot et Lassana Diarra.
Eh oui,
avec Verratti. Voilà le trio.
Ah, mais Diarra,
merci Sifax, ça a été énorme, mais malheureusement, la
bravo,
victoire, elle est pour Pierre, à qui
bravo,
on envoie
Pierre.
Un dixième t-shirt RMC.
Un t-shirt RMC.
Voilà. Et tout de suite,
avec un masque.
L'intégral sport arrive avec
Nicolas. Vous avez remarqué que je me suis beaucoup calmé quand même, hein, parce que je sais que j'ai perdu d'avance et donc.
Nico, bonsoir.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut capitaine. On est ensemble jusqu'à minuit ce soir. Il y aura l'after à partir de 22h50.
Avec qui?
Bah, qui autour de toi?
Bah, qui? Tu sais qui c'est? Du coup, l'after tous les vendredis soirs.
Bah, non, c'est qui?
Kevin Diaz.
Non,
et Joël Macardi.
C'est pas lui qui l'attendait.
Oh,
non, mais dans l'intégral sport.
Intégral sport. Kevin Diaz et Lionel Charbonnier.
Oh là là là,
c'est pas ton ami Lionel?
Si, il adore Lionel, capitaine.
Bien sûr.
On l'adore tous.
Bah, on l'adore tous, Lionel.
Bien
avec nous pour ce gros match ce soir, Lille-Montpellier. Est-ce que Lille va gagner du terrain sur le titre de champion de France ce soir avec 6 points d'avance avant le PSG Saint-Etienne ce week-end? C'est l'enjeu de la soirée sur RMC. On va vivre ça en intégralité ensemble, bien sûr, avec Gibo au stade et Maureen Lehoux à Pierre Moreau. À tout de suite.
Bonne soirée, Rotten Régal de retour vendredi prochain.
Bon week-end, bonne soirée.